je vais prendre la parole juste deux minutes pour vous souhaiter la bienvenue, pour dire que je suis très heureuse qu'on puisse aborder une question qui finalement a été restée en suspens. C'est un peu comme si les enseignants-chercheurs s'étaient censurés ou interdits de travailler sur leur propre domaine. Certains chercheurs se demandent si c'est parce qu'ils se considéraient comme trop proches de leur objet d'étude. Mais pourtant, la question du mal-être et des risques psychosociaux dans le milieu universitaire commence à être abordée. Il y a eu un article dans Le Monde il y a quelques mois. Il y a des projets de plus en plus. Et j'espère que cette journée, comme d'autres, il y en a eu une à Lyon il n'y a pas très longtemps, que voilà, d'autres vont permettre d'avancer, permettre de mieux comprendre et puis de faire évoluer la situation des jeunes chercheurs. Et ce que j'espère aussi, c'est que cette journée va contribuer à créer une nouvelle dynamique, peut-être un réseau, peut-être, voilà, on va voir, c'est à inventer ensemble. Et justement, pour essayer d'être dynamique et d'inventer ensemble, je vais vous proposer à un moment, à trois moments, une fois par demi-journée, de sortir un peu de notre zone de confort de colloque où on est confortablement assis sur nos chaises. Et on va vous mettre à contribution. On vous donnera des feuilles de papier. Par groupe de trois ou quatre, on vous proposera de répondre à trois questions qu'on vous dévoilera au fur et à mesure. C'est une surprise. Et vous aurez la possibilité de répondre soit en faisant des dessins, soit en faisant des cartes mentales, en dessinant ce qui vous semble important, soit en écrivant un poème, une chanson, ou en alignant simplement des réflexions, de façon à ce qu'après, on puisse voir toutes les idées qui sont venues, qui seront peut-être pas des idées qui auront été proposées déjà par les intervenants, et de nous permettre d'avancer pour la suite. Voilà. Je vous remercie, je donne la parole à Bernard, et je vous souhaite un très bon colloque.
Bien, merci beaucoup, Pascal, pour cette introduction. Merci à vous d'être présent pour cette journée d'études. Et donc, j'ai l'honneur d'introduire un petit peu cette journée au niveau du contenu, parce que Pascal me disait, c'est bien, le matin, il n'y a pas grand monde, qu'un Belge vienne, il peut parler, ça introduit avec une certaine chaleur humaine et on ne demande pas trop d'exigences. Je dis, bon, d'accord, d'autant plus que le temps va être fortement réduit, alors que je suis un adepte de la slow science et donc je n'ai pas chronométré du tout mon propos, donc ça veut dire que je ne connais pas la longueur de mon speech.
On va manger à 13h.
Très bien, donc quand le repas est prêt, on me le signale. Donc, je vais d'abord très rapidement me présenter. Donc, Bernard Fuselier, je suis sociologue à l'Université de Louvain et au Fonds national de recherche scientifique en Belgique. Et donc, j'ai été en quelque sorte collaborateur au montage de cette journée parce que j'ai été amené à développer un programme de recherche sur les carrières scientifiques et l'interférence entre la vie professionnelle et la vie privée, en particulier la vie familiale. Et donc, je me suis intéressé à la question des jeunes chercheurs. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'être un jeune chercheur? Bon, Bourdieu avait déjà écrit « La jeunesse n'est qu'un mot ». Et c'est vrai que les règles de vieillissement dépendent fortement des domaines dans lesquels on est. Je me souviens, quand j'ai commencé à travailler dans la recherche, comme professionnel de recherche, mon promoteur, mon directeur, Christian Marois, venait d'être nommé comme académique. Il était un jeune académique à un peu plus de 40 ans et on faisait des enquêtes par entretien dans des entreprises, dans l'industrie, industrie lourde, et les ouvriers de 40 ans se vivaient comme des vieux ouvriers. Donc, qu'est-ce qu'être jeune chercheur? Lorsque je regarde les dernières nominations au niveau du Fonds national de recherche scientifique, je vois que ça varie entre 32 ans et plus de 45 ans. En termes d'âge. Donc ça montre que la variété est importante et que la question de la jeunesse est fortement attachée à ce que les anglo-saxons appellent les juniors, qui sont liés finalement à la position professionnelle et le fait de ne pas avoir obtenu un poste définitif permanent. Alors comment j'en suis arrivé à m'intéresser, je dirais, aux jeunes chercheurs et aux carrières scientifiques dans l'interférence entre la vie professionnelle et la vie familiale? Je dirais que ce n'est pas dû à un regard théorique particulier, ce n'est pas dû, je dirais, à une problématisation dans le cadre d'une thèse de doctorat, mais c'est d'abord lié à ma propre expérience. Je suis obligé de vous resituer un petit peu cette expérience. Fin des années 90, je suis professionnellement assistant à temps plein à l'Université de Louvain, c'est-à-dire que j'ai 50% de mon temps qui est dédié à des tâches d'enseignement, d'encadrement de travaux dirigés, et 50% à de la recherche, et à une thèse de doctorat. En même temps, j'ai une charge de cours dans une autre université et j'ai accepté d'être directeur scientifique d'une fondation, la Fondation Travail Université, attachée au mouvement ouvrier chrétien. Je peux vous dire que c'était des journées bien remplies, des semaines, des mois particulièrement intenses. Dans le même temps, du côté de ma vie privée, j'étais jeune marié, avec mon épouse, on restaurait une vieille ferme qu'on restaure toujours d'ailleurs, c'est infini. La première de nos filles venait de naître, et en plus, ma grand-mère paternelle, qui avait perdu mon grand-père, donc son mari, quelques années auparavant, commençait tout doucement à perdre son autonomie, surtout mentale. Et comme mon père était fils unique et décédé en 77, en mauvais termes avec ma mère, ben c'était ma sœur et moi qui devions prendre en charge notre grand-mère. Alors je vous passe aussi du fait que j'étais un ardent pratiquant de judo à l'époque. Et donc, du côté de la vie privée, c'était aussi extrêmement intense. Et donc, c'était une période que je qualifierais de rock'n'rollesque. Mais cette expérience n'était même pas suffisante pour, en quelque sorte, m'amener à réfléchir à cette articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, entre travail et famille. Il a fallu que je sois invité à l'université d'Aberdeen par un collègue avec qui on avait collaboré dans le cadre d'un séminaire international sur la sidérurgie, parce que je travaillais à l'époque sur la modernisation industrielle, les logiques de formation, les changements technologiques, et bref, un autre domaine. Je faisais ma thèse là-dessus. Et à Aberdeen, mon collègue me présente à une prof de management, Lorna McKee, qui à l'époque travaillait sur la work-life balance in the oil industry, c'est-à-dire sur l'équilibre travail-vie dans l'industrie pétrolière, parce que Aberdeen en Écosse est la capitale pétrolière en mer du Nord. Et c'est là que je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Non seulement ça résonne dans ma propre expérience de vie, mais en même temps, je vois combien on peut en faire un objet d'analyse sociologique, et ça correspond à des enjeux de société extrêmement importants au carrefour de toute une série de transformations contemporaines. Donc je termine vite ma thèse de doctorat sur un sujet qui ne m'intéresse plus tellement. Je développe un projet avec l'Université d'Aberdeen et j'obtiens une bourse Marie Curie, donc une bourse européenne, pour faire un postdoc de 2 ans à Aberdeen, dans lequel je problématise la question de l'articulation travail-famille sous différents aspects. Je reviens, je suis nommé à l'Université de Louvain et au Fonds national de recherche scientifique, et je peux alors, je dirais avec la tête un peu sereine, développer ce programme de recherche. Je commence à travailler sur des différentes entrées, mais une des entrées, c'est les groupes professionnels, et avec 2 jeunes doctorants, on travaille sur les infirmières, les policiers et les assistants sociaux. Et puis, on thématise ce qu'on a appelé la double disponibilité pratique et subjective dans ce type de travail. Mais au fur et à mesure, on se disait, mais combien finalement ça nous parle en tant que chercheur. Et donc, en 2010, j'ai lancé un programme de recherche, d'abord un peu volontairement, puis avec le soutien du Fonds national de recherche scientifique, sur les carrières scientifiques dans l'interférence avec la vie privée et familiale. Donc tout ça pour vous dire qu'avec certaines réticences quand même quand j'ai commencé à lancer, en effet, travailler sur son propre groupe professionnel, est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va être bien perçu? Etc. Bon, dis-moi, je ne risque pas grand-chose finalement. J'y vais. Et donc c'est ainsi que j'étais amené à collaborer notamment avec Pascal Barbier qui est ici et d'autres chercheurs qui ont travaillé sur des personnes qui étaient dans une très grande proximité, c'est-à-dire des post-doctorants en situation, je dirais, d'incertitude professionnelle quant à leur avenir, en essayant de voir quelle est cette expérience du travail scientifique. Or, quelles sont les caractéristiques, en quelque sorte, de l'université avec un grand U qui permettent, je dirais, de comprendre un petit peu la problématique de cette expérience? Tout d'abord, contrairement à ce qu'il est souvent véhiculé comme image dans l'espace public, ce n'est pas à vous que je dois le dire, mais l'université n'est pas un espace de bisounours. L'université n'est pas le lieu feutré de sérénité que l'on présente parfois au grand public, mais comme Pierre Bourdieu l'a théorisé une première fois en 1976, c'est un véritable champ, un champ scientifique qui est donc un espace de concurrence, de lutte pour des positions, pour de la reconnaissance, pour du pouvoir à travers un certain nombre de critères et de règles qui lui sont propres. Hein, pour un cadre supérieur dans une multinationale, publier n'est pas un critère particulièrement important pour nous. On est ici sous l'injonction du publish or perish, terme extrêmement dur, j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc il y a cette caractéristique qui est traditionnelle de l'université comme champ, ce n'est pas nouveau. Donc la concurrence n'est pas nouvelle, évidemment, au sein de l'université. Une autre caractéristique qui me semble aussi traditionnelle, mais qui est toujours véhiculée aujourd'hui, je l'ai thématisée en allant puiser chez un sociologue américain, Lewis Kozer, qui avait forgé le concept de « greedy institution », d'institution gourmande, vorace. Pour Lewis Kozer, qui construisait son concept par rapport à celui d'institution totale d'Erwin Goffman, une institution peut être totalisante, non pas sous la contrainte directe, mais c'est parce qu'elle enrôle en quelque sorte la personne dans cette institution volontairement. Donc il y a un engagement volontaire, une disponibilité forte et volontaire dans cette institution. Et il me semble que ça caractérise assez bien la manière dont fonctionne l'université avec un grand U comme institution. Et ces deux dimensions, champ et greedy institution, ne me paraissent pas, je dirais, en contradictoires, mais se renforcent l'une l'autre pour générer une forme, je dirais, d'engagement et de pression dans travail scientifique. Évidemment, si on dit ça, ça signifie qu'un engagement total dans l'université, et j'ouvre ici une petite parenthèse, en 2012, les autorités de mon université en Belgique écrivaient « le professeur d'université entièrement investi dans son travail », un peu plus loin, « totalement investi ». Les adverbes sont importants, ce n'est pas « fortement », c'est « entièrement, totalement ». Donc, comme quoi, dans l'imaginaire de nos autorités, on était encore dans cette perspective du dévouement total à l'institution, à l'engagement pour la science, l'enseignement, le service à la société. Je referme cette petite parenthèse simplement pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est complètement obsolète. Et bien entendu, ce type de figure du chercheur et du professeur d'université, et je l'utilise au masculin, d'ailleurs Bourdieu en 76 utilisait encore l'expression « les hommes de science ». Parce que, inévitablement, un tel engagement signifie que, quelque part, on doit être libéré d'un autre type d'engagement dans la vie privée. Parce que la famille est aussi une greedy institution. Et donc, il y a une contradiction structurelle avec ce type d'engagement, ou entre deux greedy institutions, et qui était en quelque sorte apaisée ou partiellement résolue dans la société industrielle lorsqu'il y a une forme, il y avait une forme de légitimité, d'une division sexuée du travail productif et du travail reproductif. Le boulot pour les mecs, le fourneau pour les femmes. Bien entendu, je caricature, mais il y avait aussi un certain nombre de profs et de chercheurs, il y en a évidemment toujours, qui étaient plutôt de l'ordre du célibataire. Alors, si je reprends une grande figure, le scientifique belge le plus connu au monde, le professeur Tournesol. Si vous regardez, c'est quelqu'un dont a une vie privée qui est peu absorbante, qui est pris en charge d'ailleurs par le capitaine Haddock et Tintin au château du Moulinsart. Si je prends une autre figure importante, qui est le théoricien du Big Bang, vous connaissez ? C'est le chanoine Georges Lemaître, de l'Université de Louvain, qui, comme le dit, c'était un prêtre, donc pris en charge par son institution. Bref, il y a une contradiction au départ entre cet engagement fort dans l'institution gourmande et dans le champ de la recherche scientifique. Si on lit, je ne sais plus son prénom, mais Balibar, sur le chercheur au quotidien, publié l'année passée en 2014, on voit combien il est engagé dans la beauté du geste scientifique, la quête de la vérité scientifique, sans qu'on sache quelque chose sur sa vie privée. On imagine qu'il a une vie de couple, qu'il a des enfants en creux dans son texte, mais globalement, la recherche, c'est tout dans la vie. Bien entendu, le monde change, la société change, les aspirations changent, les modèles culturels changent. Et donc, cette division sexuée du travail productif et reproductif, même si elle se reproduit partiellement, n'a plus cette légitimité, et les aspirations des générations de chercheurs n'est plus de sacrifier sa vie professionnelle pour sa vie familiale ou sa vie familiale pour sa vie professionnelle. Et donc, c'est plutôt une forme déjà d'articulation et on veut faire l'un et l'autre. Ce qui révèle directement cette cette contradiction initiale. Mais en plus, cette dernière décennie, on a vu pénétrer dans les universités le fameux New Management Public, qui va encore mettre une couche supplémentaire sur la pression sur les chercheurs via, finalement, une déclinaison du leitmotiv de l'excellence sous l'angle de la productivité, hyper-productivité, hyper-compétitivité, hyper-mobilité et rendre des comptes continuellement. En anglais, productivity, competitivity, mobility and accountability. Avec des mises en équivalence que vous connaissez, qui ne sont plus même à l'échelle nationale, qui sont à l'échelle internationale, le H-index qui vous permet d'être comparés les uns par rapport aux autres, je dirais, de Rovaniemi à, non, c'est toi, en Finlande, à, je ne sais pas où, à Paris. Et donc, il y a, à travers cette nouvelle régulation, donc une pression supplémentaire qui est faite, et dans un contexte où il y a une augmentation du nombre de docteurs, du nombre de post-doctorants, qui sont liés aussi avec l'inflation des niveaux des études et avec les politiques de soutien au développement de thèses de doctorat dans une société dite de la connaissance, pour être plus compétitif au niveau international et être innovateur dans cette compétition. Bref, il y a un bassin de concurrence qui n'a fait que croître, des postes définitifs qui n'ont pas cru en conséquence, qui sont même, dans certains cas, en réduction. Et donc une augmentation du nombre de chercheurs qui sont en situation de précarité. Et donc l'ensemble de ces phénomènes font que, on peut dire, pour reprendre le titre d'un petit bouquin que j'ai écrit avec Maria del Rio Caral, les chercheurs sont sous haute tension. Et donc c'est à travers cette problématique-là que j'ai essayé de capter en quelque sorte l'expérience de chercheurs qui sont engagés dans cette carrière scientifique en travaillant premièrement sur les chargés de recherche du Fonds national de recherche scientifique, c'est-à-dire des postdoctorants qui ont passé des épreuves de sélection assez fortes. C'est une filière valorisée en Belgique francophone, qui ont un statut qui peut être considéré, notamment en France ou en Italie, comme assez confortable, puisqu'ils ont un contrat de minimum 3 ans qui peut être étendu une 4e année, voire qui peut monter jusqu'à 6 ans si on fait un séjour long à l'étranger, qu'on met entre parenthèses son mandat de chargé de recherche FNRS. Bref, c'est un statut relativement intéressant dans le cadre des postdoctorats et rémunéré de l'ordre de un peu plus de 2000 euros net par mois, donc in the pocket. Donc ce sont des chercheurs qui ont déjà passé certaines épreuves de la sélection scientifique. Je dis ça parce qu'on n'a pas travaillé, il y a une foule, une hétérogénéité. Le postdoctorat, finalement, c'est quoi? C'est une expérience de recherche après la thèse. Mais là, ici, une population déjà bien ciblée. Et donc, on a travaillé à travers des questionnaires, des entretiens que l'on mène encore d'ailleurs actuellement, bien qu'on élargisse un petit peu la population, pour essayer de comprendre que représente pour eux cet engagement dans la carrière scientifique. Alors, il y a un certain nombre d'enseignements, je dirais, transversaux ou un peu généraux. Tout d'abord, et je ne vous étonnerai pas en disant que, en général, le rapport au travail, aux relations de travail est très positif. Ils aiment ce qu'ils font. Certains utilisent le terme de passion. Il y a d'ailleurs une forme d'injonction à être passionné dans ce que l'on fait, mais on peut constater chez la grande majorité qu'il y a un réel intérêt dans le travail scientifique, considérant qu'ils sont aussi dans des relations humaines de travail qui sont hautement satisfaisantes. Un point qui est un peu plus mitigé, mais qui reste quand même très positif, c'est le rapport au salaire. Mais comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une situation un peu privilégiée au niveau des post-doctorants. Mais il y a quand même, qui est un peu décrié plutôt par des hommes, dans les sciences et technologies et dans les sciences de la santé, notamment parce que le référentiel de rémunération se situe dans le secteur privé plus rémunérateur. En revanche, ce qui est fortement critiqué, et là, y compris par une grande majorité de chercheurs, c'est le statut. Le statut, non pas en termes de rémunération, le statut, non pas en termes de contenu du travail, mais en termes d'incertitude par rapport à l'avenir. Nous avons des jeunes entre 27 et 37 ans qui sont dans une situation de fort engagement professionnel, qui sont un tournant, donc qui sont à un moment un peu important dans leur parcours de vie où se prennent un certain nombre de décisions, tant au niveau professionnel, mais aussi du côté de la vie privée, projet de couple, projet d'enfant, d'achat de logement, etc., dans une situation où on ne sait pas de quoi demain ou après-demain va être fait. Donc c'est un élément extrêmement fort de la critique que l'on peut voir à travers ce type d'enquête auprès des postdoctorants du FNRS. Un autre enseignement transversal, c'est le vécu d'une tension entre la vie professionnelle et la vie privée, qui est avec le sentiment finalement que le travail, même si quelque part on l'apprécie, mais que le travail envahit notre espace privé. Cela n'empêche pas que la grande majorité souhaite, non, la grande majorité, plus de 90%, souhaite en premier choix, s'ils avaient la possibilité, de poursuivre une carrière scientifique. Mais quand on leur demande quelle est votre estimation de la probabilité d'obtenir un poste permanent, là, ça change quelque peu, et le genre et la situation privée jouent fortement. Par exemple, les plus pessimistes par rapport à cela, ce sont les jeunes mères, qui estiment, en moyenne, et c'est aussi la médiane, à 40% leur probabilité d'obtenir un poste permanent. Les plus optimistes, ce sont les pères, qui ont une estimation à plus de 65%. Et les hommes et les femmes sans enfants se situent, sont très proches, aux alentours d'un peu plus de 50%, dont leur estimation est un peu plus de 50% de chances de réussite. Cela pour dire parce que la forme de régulation du champ scientifique fait intervenir cette dimension, évidemment, genre et situation privée, de façon assez forte. Or, pour synthétiser, je dirais globalement que le processus dans lequel qu'on peut décrire l'expérience du travail scientifique de façon un peu tendancielle, c'est que les chercheurs sont à un moment donné happés dans la recherche scientifique. Certains parlent de vocation et avaient déjà un projet, en quelque sorte, professionnel d'engagement dans la carrière scientifique, mais pour la grande majorité, c'est à un moment donné une opportunité qui s'ouvre ou qui nous est offerte et qu'on saisit. Et on prend goût à cette recherche pour finalement être habité par la recherche. On se réveille la nuit, on pense recherche, on va aux toilettes, on pense recherche, on prend sa douche, on pense recherche, on prend le train, on pense recherche. Donc on est habité par sa recherche. Et puis, une troisième phase, c'est plutôt une phase de tiraillement autour de la recherche, notamment liée à la question de l'incertitude professionnelle, mais aussi à des événements qui peuvent être liés à la vie privée. Donc nous sommes là par rapport à quelques enseignements généraux. Si on regarde de façon un peu plus spécifique le rapport à la carrière scientifique, on peut constater qu'il y a quand même une pluralité. Et cette pluralité, je termine par là, peut s'exprimer de la façon suivante. J'ai encore 3 minutes. Ah, le diktat du temps. Cette pluralité, nous l'avons en quelque sorte stylisée à partir de quatre rapports, je dirais, idéal typiques à la carrière scientifique. C'est d'abord le rapport engagé à la carrière, le rapport optimiste à la carrière, le rapport ambivalent à la carrière et le rapport distant à la carrière. Alors, par rapport engagé, nous avons là le cas de figure de chercheurs pour qui la recherche est véritablement, je dirais, leur priorité de vie, que tout s'organise par rapport à cette priorité de vie. Et si on prend sous l'angle des espaces-temps, il n'y a plus de différence entre la vie privée et la vie professionnelle. Tout est confondu. Ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs qui incarnent le plus cette logique ou ce rapport, ce sont des chercheurs soit célibataires, soit en couple avec d'autres chercheurs sans enfants, soit des chercheurs parents. On le sent plus du côté des pères, mais nous avons trouvé l'un ou l'autre cas de figure de mère, dont finalement la configuration privée est extrêmement soutenante dans leur engagement dans la carrière scientifique. Le deuxième rapport, c'est le rapport qu'on a qualifié d'optimiste et qui renvoie davantage à Bon, un fort engagement, mais le fort investissement dans la recherche est quand même, se retrouve dans tous les cas de figure, y compris même chez le distancié. Cet investissement s'opère dans une perspective de conciliation, et là on l'a repéré chez les parents, travail, famille, mais on pourrait l'étendre avec la vie privée, où il y a un certain nombre de signes positifs quant à la possibilité de poursuivre sa carrière qu'on lit avec un certain optimisme, en même temps qu'on dédramatise parce que du côté de la vie privée et de sa vie conjugale et parentale, on se sent bien, on veut aussi y investir, et notamment l'arrivée d'un enfant plutôt que d'handicapé dans la carrière est perçu comme un renforcement, et je l'ai vu aussi dans le cas de mère qui venait d'être nommée, parce que ça permet par exemple de mieux structurer son temps, de moins être dispersé et avoir un sentiment de plus grande efficacité, ce qu'avec Pascal Barbier dans un papier qui va sortir, on a appelé une logique de renforcement parentalité. Travail. Le troisième cas de figure, c'est celui du rapport ambivalent à la carrière, une ambivalence qui plonge dans le tiraillement lié au fait qu'on a l'impression de ne pas pouvoir être suffisamment disponible pour la recherche et pas être suffisamment disponible pour sa vie privée et en particulier parentale. Là, on l'a clairement vu chez des jeunes mamans. Et ça rejoint les travaux, par exemple, d'Irène Jonas et Catherine Marie, sur la double culpabilité, à la fois le sentiment de ne pas être suffisamment une bonne chercheuse parce qu'on n'a pas la disponibilité temporelle et mentale pour pouvoir être complètement engagée, et le sentiment de ne pas, et d'être d'une culpabilité, de ne pas être une suffisamment bonne mère. Donc on est là dans une ambivalence, un tiraillement, qui est évidemment lié à des configurations de vie privée également. Le dernier cas de figure, c'est le rapport distant, c'est-à-dire que progressivement se dessine une distanciation par rapport à la carrière scientifique pour différentes raisons, soit parce qu'on a eu des signaux qui n'étaient pas extrêmement enthousiastes sur la possibilité de poursuivre cette carrière scientifique, soit aussi parce que finalement, on estime que ça ne vaut peut-être pas la peine de faire tous les sacrifices demandés, à quoi ça sert de les faire avec cette grande incertitude, ou parce qu'on a fait l'expérience de ce milieu qui nous a plu, mais on envisage de pouvoir faire autre chose, notamment parce qu'on estime que ça rejoindrait une passion qu'on avait déjà avant, par exemple artistique, ou parce que l'utilité sociale serait plus importante ailleurs, des cas de figure qu'on a pu observer. Donc, quatre rapports à la carrière scientifique, un rapport engagé, un rapport optimiste, un rapport ambivalent, un rapport distant. Comme mon temps de parole, à mon avis, est épuisé, je ne vais pas conclure, de toute façon, on pourra continuer à discuter à travers ces journées, mais peut-être par rapport à ces rapports, comment vous vivez-vous? Est-ce que, évidemment, ce sont des rapports qui sont évolutifs dans le temps, avec Pascal notamment à travers des entretiens longitudinaux, on peut voir qu'il y a des mouvements qui s'opèrent d'une logique à l'autre. Bien, merci pour votre attention et encore, je vous souhaite une journée passionnante sur notre propre condition de chercheur.
Merci Bernard pour cette introduction qui met en perspective vraiment une des grandes problématiques auxquelles on est tous confrontés, je pense. J'aimerais inviter Fabrice Travaglianti, et c'est avec Isabelle Lanzès, je crois, ou vous êtes tout seul ou... Voilà, à nous rejoindre. Et Thomas Pierre, qui n'est peut-être pas encore là. Ah si, qui est là.
Donc voilà, bonjour à tous. Donc je suis Fabrice Travaglianti, je suis psychologue du travail et doctorant à l'unité de valorisation des ressources humaines de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'université de Liège. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une recherche que j'ai menée dans le cadre de ma thèse, qui donc a pour thème la qualité de l'emploi et l'écart entre les besoins et les caractéristiques de l'emploi des doctorants. Quelle est l'influence sur leur intention d'abandonner leur processus de thèse? Alors, lorsque l'on sait que le taux d'abandon du doctorat peut varier entre 30 et 40% en fonction de la discipline et du pays, lorsque l'on sait également qu'en plus d'être une expérience stimulante, le doctorat est également un processus émotionnel qui peut mener au stress et à l'épuisement, il nous a semblé important d'essayer de mieux comprendre pourquoi les doctorants souhaitaient abandonner leur thèse. Donc, ce que l'on sait déjà par rapport à l'abandon, c'est l'importance du superviseur de thèse, l'importance de son support, l'importance du feedback qu'il rend, de la motivation qu'il donne aux chercheurs, l'importance de l'apprentissage à mener une recherche. Le doctorant étant un jeune chercheur, il n'est pas toujours évident de savoir directement comment mener une recherche à bien. L'importance de la charge de travail et de la compétition, et également l'importance du manque de contact avec autrui. Donc dans la présente recherche, ce qu'on souhaite, donc c'est mieux comprendre l'abandon, mais en faisant référence à la perception des doctorants de leur qualité d'emploi, en faisant également référence à leurs besoins, aux besoins des doctorants en termes de qualité d'emploi et aux conséquences de la non-prise en considération de ces besoins, et à la perception d'une adéquation ou d'une inadéquation entre leurs besoins et les caractéristiques qu'ils rencontrent dans leur emploi. Alors, comme cette recherche a été réalisée en Belgique, il me semble important de faire un point sur le doctorat en Belgique. Donc, en Belgique, le doctorat est un troisième cycle universitaire. Selon la Charte européenne pour la recherche, le doctorant est considéré comme un jeune chercheur. Le doctorat vise bien sûr à l'obtention du titre de docteur et est considéré comme une première expérience professionnelle, le doctorant percevant un salaire mensuel et participant à la sécurité sociale. Donc, globalement, je n'ai pas repris tous les types de contrats, mais il y a plusieurs types de contrats à partir desquels le doctorant peut réaliser sa thèse, par exemple le contrat d'assistant ou des subsides nationaux ou internationaux, des contrats de recherche, etc. Il y a deux manières principales de réaliser la thèse en fonction de la faculté et de la discipline. Il y a tout d'abord une thèse dite par article où le doctorant doit rédiger des articles scientifiques qui doivent être publiés dans des revues internationales avec facteur d'impact. Et donc pour pouvoir défendre la thèse, le doctorant doit au moins avoir publié un article dans une de ces revues. Et il y a également donc la thèse classique hein, qui est la rédaction d'un manuscrit reprenant l'ensemble des recherches. Alors la qualité d'emploi, c'est un concept multidimensionnel dont les dimensions peuvent varier en fonction des études et il est vraiment très difficile d'arriver à trouver un consensus autour de la définition d'un emploi de qualité. On remarque toutefois dans la littérature scientifique que plusieurs auteurs ont mis en évidence différents indicateurs de qualité d'emploi et qu'il y a eu une certaine évolution dans la définition de ces indicateurs. On voit par exemple en 2007 que Davon et Herel proposent de définir la qualité des emplois autour de quatre axes principaux, qui est la sécurité socio-économique, les possibilités de formation, les conditions de travail et le genre et la conciliation vie privée et vie professionnelle. En 2009, Muñoz de Bustillo, donc dans son travail pour l'Union européenne, a également défini la qualité de l'emploi en 20 indicateurs, parmi lesquels les salaires, le temps de travail et les risques physiques et psychologiques. Et en 2011, Holman et McLellan ont défini la qualité d'emploi autour de 5 indicateurs principaux, qui sont l'organisation du travail, la flexibilité, la sécurité, les salaires, etc. Donc, sur base de ces indicateurs, mais également sur base d'une précédente étude qualitative donc, que j'ai également réalisée dans le cadre de ma thèse, on a voulu valider ces indicateurs théoriques, on a voulu les valider empiriquement. Et donc, on a réalisé des entretiens avec 60 travailleurs dans des entreprises belges. Et ces entretiens ont permis de mettre en évidence, sur base donc, des indicateurs que je viens de vous présenter, les 12 besoins qu'ont les travailleurs concernant leur qualité d'emploi. Donc on remarque que les travailleurs, en général, ont le besoin d'avoir un emploi stimulant, par exemple, d'avoir un horaire de travail prévisible, de développer l'employabilité, d'avoir des opportunités de se développer, donc en termes de formation, d'avoir une sécurité d'emploi ou encore d'être reconnu et soutenu par la hiérarchie. Donc ces besoins que nous avons mis en évidence vont nous servir de base pour mesurer la qualité de l'emploi perçu des doctorants, mais également afin de mettre en évidence quels sont les besoins qui sont pris en considération ou pas dans le processus de thèse selon les doctorants que nous avons interrogés. Donc, sachant que la prise en considération des besoins des individus a un impact positif sur le bien-être au travail, et ceci est mis en évidence de la théorie de l'autodétermination de Sirayen en 2000, on va nous concentrer sur la perception d'un écart ou d'une non-prise en considération, donc des besoins des doctorants par rapport à leurs caractéristiques de l'emploi. Donc ce type d'adéquation entre les besoins et les caractéristiques de l'emploi étant le type d'adéquation la plus importante du point de vue des travailleurs, la théorie du need supply fit, donc qui est l'adéquation entre le travail et les besoins, nous servira donc de cadre conceptuel. Donc l'adéquation travail-besoin, donc il semblerait que l'écart entre la situation idéale des individus, donc qui est basée sur leurs besoins, et la situation actuelle, qui est basée sur la perception de leur environnement, puisse être conceptualisé en tant que PE-fit. Et le PE-fit, donc, c'est l'adéquation, donc, plus globalement, de la personne et son environnement, qui se définit comme les attitudes et les comportements qui résultent de la congruence entre les caractéristiques de l'individu et celles de son environnement. Et maintenant, bien reconnu dans la littérature scientifique que l'adéquation de la personne et l'environnement est un concept multidimensionnel qui peut inclure, par exemple, l'adéquation de la personne et l'organisation, l'adéquation de la personne et le groupe, entre la personne et sa carrière, entre la personne et son superviseur et entre la personne et son emploi en général. Ce dernier type d'adéquation est également subdivisé en deux sous-ensembles, qui est l'adéquation entre les demandes qui émanent de l'emploi et les compétences du travailleur, et également l'adéquation entre les besoins et les caractéristiques de l'emploi. Et c'est principalement donc ce dernier type d'adéquation qui nous intéresse particulièrement ici, et qui donc est défini comme la congruence entre, d'une part, donc les besoins, les désirs et les préférences des individus, et d'autre part, les caractéristiques de leur emploi. Alors, en termes de conséquences sur le bien-être, il semblerait que ça ne soit ni l'état actuel ni l'état recherché qui sont des éléments suffisants pour prédire le bien-être, mais c'est bien la perception d'un écart entre les deux. Et donc, plus grand est cet écart et plus grande sont les probabilités de conséquences négatives pour le travailleur, comme le burn-out, par exemple, ou l'intention de quitter. Et plus grande est l'adéquation, par contre, plus grandes sont les probabilités de conséquences positives pour l'individu, comme sa satisfaction et son engagement au travail. Donc, selon toujours la théorie de l'autodétermination, il semblerait que donc, si les individus ont la possibilité de satisfaire leurs trois besoins fondamentaux, qui sont les besoins d'autonomie, de compétence et d'appartenance, ils pourront fonctionner de manière optimale et donc être satisfaits au travail, par exemple. Et selon cette théorie, il semble aussi logique que la satisfaction d'un besoin puisse avoir des conséquences négatives. Alors, si on se centre sur les conséquences, sur l'intention de quitter, qui nous intéresse ici particulièrement, Scroggins et Werker, donc en 2007 et 2003, ont également réalisé donc des études afin de voir l'impact de l'adéquation entre le travail et les besoins sur l'intention de quitter. Et donc, ils ont remarqué que la congruence entre les besoins des individus et les caractéristiques de leur emploi a tendance à diminuer l'intention de quitter. Quoi ? Parce que le processus de turnover, en fait, se conceptualise en une série d'éléments, une série de décisions qui vont, au final, pousser l'individu à quitter son emploi. Donc, le travailleur, dans ce processus, va prendre en considération plusieurs facteurs qui, au final, vont influencer son intention de quitter. Et un exemple de facteur que l'individu peut prendre en considération, c'est le degré auquel l'emploi actuel est en congruence ou non avec ses caractéristiques personnelles. Donc, l'objectif de cette recherche est de mieux comprendre pourquoi les doctorants abandonnent leur thèse. Et donc, on va essayer de voir quels sont les besoins les plus importants pour les doctorants, sur base de les 12 besoins que je vous ai présentés tout à l'heure, et quel est l'impact de l'adéquation entre ces besoins et les caractéristiques de leur emploi sur l'intention de quitter. Donc, notre hypothèse est donc que l'adéquation des besoins des doctorants en termes de qualité d'emploi et les caractéristiques de leur emploi aura un effet négatif sur leur intention de quitter, de sorte que plus le doctorant percevra une adéquation, et moins il aura l'intention de quitter sa thèse. Donc pour ce faire, nous avons envoyé un questionnaire en ligne à des doctorants d'une université belge. Nous avons reçu 250 réponses. Nous avons envoyé deux questionnaires principaux. Le premier était notre questionnaire d'adéquation que nous avons créé sur base des 12 besoins qui ont été mis en évidence. Ce questionnaire était composé de 37 questions et les doctorants devaient répondre à des exemples de questions du type « idéalement, je voudrais, par exemple, être reconnu par ma hiérarchie pour le besoin de support » et sur une échelle de Likert alors de moins 3, donc beaucoup moins qu'actuellement, à plus 3, beaucoup plus qu'actuellement, en passant par 0, donc pas de changement par rapport à ma situation actuelle. Et ce type d'échelle nous a permis d'avoir directement une image de la perception d'un écart ou d'une adéquation. En plus de ce questionnaire, nous avons envoyé un questionnaire d'intention de quitter, qui était composé de 3 questions, avec des exemples de questions « je pense souvent à quitter ma thèse », de « pas du tout d'accord » à « tout à fait d'accord ». Et nous avons également inséré une question ouverte qui demandait « donc si vous souhaitez abandonner votre thèse, pourriez-vous nous expliquer pourquoi ?» Alors, en termes d'analyse, on a réalisé 3 analyses principales. Premièrement, l'analyse des résultats descriptifs pour mettre en évidence tous les besoins qui étaient pris en considération ou non dans le doctorat. Des régressions hiérarchiques afin de voir quels sont les besoins qui influencent le plus l'intention de quitter, quel type d'adéquation influence le plus l'intention de quitter. Et nous avons également analysé notre question ouverte. Alors, en termes de résultats, donc les résultats descriptifs, tout d'abord, les doctorants que nous avons interrogés perçoivent une bonne adéquation entre leur emploi et leur besoin de recevoir un salaire fixe et suffisant pour subvenir à leurs besoins, de prédictivité du temps de travail, donc d'avoir un horaire de travail qui soit prévisible, de flexibilité au travail, par exemple la possibilité de télétravailler, pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle, et d'avoir un emploi stimulant. Donc, il semblerait que pour les personnes qui ont répondu à notre enquête, ces cinq besoins soient pris en considération dans leur processus de thèse. Par contre, les doctorants interrogés perçoivent une mauvaise adéquation entre leur emploi et leur besoin de sécurité d'emploi en termes de durée et de stabilité du contrat de travail, en termes d'employabilité, donc de possibilité surtout de développer leur employabilité au cours de leur doctorat, et finalement leur besoin de protection sociale et globalement de connaissance des droits sociaux ou d'avoir la possibilité de s'assurer des revenus suffisants en cas de perte d'emploi. Donc à ce stade, ces résultats descriptifs nous permettent de mettre en évidence les besoins qui sont moins pris en considération dans le doctorat, mais à ce stade ne nous permettent pas de dire si ces besoins ont un impact sur l'intention de quitter. Pour répondre à cette question, nous avons réalisé donc les régressions hiérarchiques, et sur nos 12 besoins, seule l'adéquation entre le besoin de reconnaissance de la part du superviseur de thèse et la reconnaissance et le support présent dans l'emploi actuel avait un impact significatif sur l'intention de quitter. Donc, sur nos 12 besoins, c'est uniquement ce type d'adéquation qui a un impact sur l'intention de quitter. Notre question ouverte, donc, qui était si vous souhaitez quitter votre thèse, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Nous avons obtenu 122 réponses sur les 250 doctorants. Si on enlève les trentaines de doctorants qui souhaitent quitter leur thèse, tout simplement parce qu'ils arrivent en fin de parcours, on arrive toujours avec 30 à 33% de doctorants qui souhaitent abandonner leur processus de thèse. Et donc, on rejoint globalement les pourcentages que je vous ai montrés donc, au début de présentation. Donc, ces doctorants qui souhaitent abandonner mettent surtout en évidence le manque de support et de reconnaissance de la part du superviseur de thèse pour 16% d'entre eux, le manque de stabilité du contrat et le manque de plus-value du doctorat et le faible développement de l'employabilité. Donc, ces résultats de la question ouverte viennent confirmer nos précédents résultats. Alors, pour conclure, en termes de discussion, donc on voit que les doctorants mettent en avant l'importance d'avoir une meilleure stabilité d'emploi, l'importance d'avoir de meilleures possibilités de développer leur employabilité et de meilleure protection sociale. Toutefois, même si ces besoins sont importants pour eux et qu'ils ne semblent pas être pris en considération dans leur processus de thèse, ils ne semblent pas, en tout cas pour dans cette recherche, influencer directement l'intention d'abandonner leur thèse. Parce que l'élément le plus important qui pousse le doctorant au final à abandonner son processus de thèse, c'est la perception d'un écart ou d'une faible adéquation entre son besoin de reconnaissance et de support de la part de son superviseur de thèse et sa situation actuelle en ces termes. Et ce résultat donc est également confirmé au travers de notre question ouverte. On pourrait émettre l'hypothèse que le doctorant serait donc prêt à accepter une moins bonne stabilité de contrat, de moins bonnes possibilités de développer l'employabilité, de moins bonne protection sociale, s'il peut au moins trouver un support de la reconnaissance de la part de son superviseur. Alors, en termes d'application pratique, le doctorant étant un jeune chercheur non expérimenté, nos principales recommandations vont au superviseur de thèse, évidemment. Donc, il est important d'accompagner le jeune chercheur dans son processus de thèse, en le conseillant, en lui donnant des tuyaux, mais l'accompagnant également dans la rédaction de ses papiers, qui n'est jamais une étape évidente. Il est aussi important de créer un environnement de travail positif en lui apportant du support et en lui apportant de la reconnaissance. Toutefois, certains auteurs, même s'il semble simple, a priori, d'apporter de la reconnaissance, d'apporter du support à ces chercheurs, certains auteurs ont mis en évidence le fait que les superviseurs ne sont en fait pas bien préparés à être reconnaissants, ne sont pas bien préparés à pouvoir créer un environnement de travail positif. Et donc, on encourage dès lors les universités, donc à un niveau plus global, à sensibiliser les superviseurs aux questions de support et de reconnaissance, et peut-être à mettre en place des programmes de formation, par exemple sur les questions de justice, les questions d'équité, les questions de support, de mettre en place des échanges de bonnes pratiques sur ces termes. Et concernant le besoin d'employabilité, car même s'il n'est pas directement lié à l'intention de quitter, on remarque que c'est quand même un besoin qui est important pour les doctorants, à prévoir par exemple, et lorsque c'est réalisable en fonction de la discipline, en fonction de la faculté, des partenariats avec des entreprises, avec des hôpitaux, avec le monde entre guillemets pratique, pour essayer de pouvoir développer au mieux le sentiment d'employabilité des doctorants. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. Bonjour. Donc, je me présente brièvement, Pierre Thomas, Pierre le nom, Thomas le prénom. vous choisissez, et je ne m'offusque pas qu'on m'appelle juste par mon nom ou par mon prénom, docteur en sociologie. Je viens de l'Université de Lorraine. Mon propos aujourd'hui ne s'appuie pas sur une recherche comme précédemment, mais plus sur des retours d'expérience réflexifs de moi-même, mais aussi de mes collègues et des jeunes doctorants qui sont actuellement en cours et que je côtoie dans le cadre de mes activités. Donc ce n'est pas non plus le cœur de mes recherches, mais je vais mettre en rapport ces retours d'expérience avec ce que je développe actuellement comme recherche autour des mutations de ce qu'on appelle la société salariale, et avec pour hypothèse centrale que l'expérience actuelle des jeunes chercheurs est directement en lien avec ces mutations. Elles sont en prise avec les mutations de la société salariale qui, je vais développer deux facettes, donc le côté société salariale, mais aussi ce que Brigitte Hibou appelle la marchéisation, concept qu'elle n'a pas totalement, développé, formalisé, et que je travaille actuellement sur le champ du travail social, mais aussi sur d'autres champs, à développer plus précisément. Alors, je vais commencer par poser quelques expériences de jeunes chercheurs, qui vont faire un peu écho à ce qui a déjà été dit, et je m'avais m'attaché plus à ceux qui ont fini leur doctorat, merci. Et le premier impact de moment biographique après thèse est bien entendu la difficulté d'insertion professionnelle, c'est-à-dire la difficulté d'avoir un poste et un allongement aussi de cette durée d'insertion. Donc ça, c'est le premier impact qu'on note chez beaucoup de mes collègues amène à éventuellement soit abandonner la carrière, soit à bifurquer. Je vais vous donner quelques exemples. Cette difficulté d'insertion amène, comme il a été dit d'ailleurs, les jeunes docteurs à rentrer dans une forme de course frénétique à la publication, à la communication, à une forme de pression. Souvent, c'est la première chose qu'on me dit. Alors, en ce moment, est-ce que tu as des publications en cours ? C'est la question récurrente qui vient toujours. Bon nombre de chercheurs, au niveau donc de l'insertion sociale et professionnelle, sont dans une forme de précarité, vivent de contrats. Alors, il y en a qui ont des contrats postdoctoraux, évidemment, tout n'est pas égal pour tout le monde. Il y a des principes de variation sur lesquels je parlerai un petit peu. Mais lorsque le contrat se finit, la position reste instable, précaire. S'ils ne sont pas des affiliés au sens de Robert Cassel, ils ne sont pas non plus totalement insérés. Donc il y a une forme d'incertitude qui a été mentionnée. Et on verra qu'il y a beaucoup d'échos, je trouve, dans ce que je vais dire, avec ce qui a été dit avant. Ensuite, on a aussi un allongement à l'accès à l'autonomie familiale, ou à l'autonomie dans le logement, à la parentalité. Ça, c'est aussi des phénomènes annexes. Et donc, on peut dire que la persévérance dans la carrière tient aussi à des facteurs économiques, solidarité familiale ou conjugale, à un réseau professionnel important. Ça, évidemment, tous ceux qui font de la recherche savent à quel point c'est quelque chose d'essentiel. Mais comme je l'ai dit, tout cela varie un peu selon ce que j'appellerais la puissance sociale des lieux, c'est-à-dire des laboratoires, des universités, et aussi des disciplines qui n'est pas à négliger. On verra pourquoi lorsque je parlerai de la marchéisation. Alors, face à ces difficultés, certains abandonnent la carrière ou bifurquent. Alors, au niveau des abandons, c'est toujours plus difficile, car bien souvent, les abandons de carrière, on n'a plus les personnes sous la main, on ne les voit plus du jour au lendemain, et c'est notre mémoire qu'on doit activer pour se souvenir, ah oui, il y avait un tel, où sont-ils, que sont-ils devenus, on n'a pas tout le temps les données, bien que les écoles doctorales essayent de constituer des données, mais effectivement, souvent, ce sont des gens qui disparaissent, je dirais, du paysage des laboratoires. Alors, par exemple, de ces abandons, je dirais, que j'ai trouvé, par exemple, un ancien docteur en sociologie. Je l'ai retrouvé sur un de mes terrains de recherche, une organisation de livraison à domicile, où il était simplement agent de contact avec son doctorat de philosophie. Hein. Alors moi, j'étais en train de faire ma thèse, je me suis dit, bon, ça m'a fait un peu drôle, je dirais, de le voir là. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors on se dit, bon, moi je fais de la sociologie, c'est un peu plus, hein, mais au final, hein, c'est difficile pour, je pense, notamment, comme je l'ai dit, au niveau des disciplines, un champ des sciences humaines et sociales, et on verra, je développerai pourquoi. Certains passent des concours pour travailler dans les collectivités locales, pour enseigner, donc là on est déjà dans une forme de bifurcation, l'enseignement, hein. Et donc, dans ces formes de bifurcation, on voit aussi des personnes monter des cabinets de consultants en organisation, alors qui n'est pas une entreprise non plus facile, hein, vu qu'il faut monter sa boîte, la rendre rentable, s'implanter sur un marché. Donc, c'est pas parce qu'on monte sa boîte que tout est réglé. Donc, on reste dans une forme de difficulté d'insertion, mais avec des voies très différentes et une sortie, je dirais, de la voie royale qui serait... le recrutement, d'abord le post-doc, puis le recrutement, je dirais. Mais on verra qu'il n'y a pas de place, je dirais, pour tout le monde. On a aussi des personnes qui revalorisent leur bifurcation en s'engageant dans des secteurs militants, secteurs associatifs, par exemple, revalorisant ainsi par leur engagement militant le déficit lié à leur place dans la division morale du travail universitaire, pour reprendre l'idée de Hughes, c'est-à-dire d'avoir un métier moins prestigieux que l'idée qu'on se faisait, hein, et que le classement qu'on se faisait. Alors, voilà pour les expériences. Je pense que vous en avez aussi. On en a parlé précédemment. Donc, je vais revenir maintenant sur les deux aspects qui sont au final les deux faces d'une même pièce, qui engendrent, et là aussi, il y aura des échos, mais qui engendrent ces formes d'expérience, hein, à savoir ce que j'appelle donc la marchéisation de la société, et spécifiquement du monde de la recherche de l'université, et la déconstruction de la société salariale assurantielle, modélisée donc, ou dont parle Robert Cassel, mais pas uniquement, évidemment. Hein, on peut revoir aussi les travaux de François Ewald sur l'État-providence, qui, je le rappelle, est une formule forgée par les détracteurs de l'État-providence, d'ailleurs. Alors, je vais commencer par la marchéisation de la société. Alors, je ne vais pas vous faire un déballage conceptuel de ce que c'est que la marchéisation, mais je distingue quand même ça de la marchandisation ou de ce que Michel Chauvière appelle la chalandisation, en ce sens qu'il s'agit bien de transformer dans un marché. Un marché, c'est un espace de rassemblement des personnes ou des choses, hein, des universités, des laboratoires, des projets même de recherche, hein, qui permet la mise en équivalence de ces personnes, de ces projets, c'est-à-dire la mesure de leur pertinence, de leur importance, de leur grandeur au sens de la pragmatique, de la critique, développé par Luc Boltanski, donc, qui est membre de l'EHESS. Et la marchéisation consiste grosso modo à créer des marchés, et c'est un processus qui gagne, je dirais, toute la société, dans le sens où d'autres secteurs, comme le secteur du travail social, et notamment l'insertion par l'activité économique, se marchéisent, c'est-à-dire que de plus en plus, hein, on va les établissements d'insertion sociale, d'aide à l'insertion sociale, se doivent de trouver des contrats et sont mis dans une forme de concurrence, ce qui va modifier d'ailleurs le recrutement des personnes qui vont pouvoir être éligibles à ce genre de dispositif, et on va de plus en plus vers une montée en qualification des personnes qui vont être éligibles au dispositif d'insertion sociale, d'insertion par l'activité économique. Alors, la marchéisation n'est pas spécifiquement moderne, elle n'est pas spécifiquement, je dirais, illégitime dans tous les secteurs, mais elle pose quand même un certain nombre de questions sur les évolutions de ces secteurs. Alors, au niveau de la recherche, je vais notamment m'appuyer sur l'ouvrage d'Isabelle Bruno, hein, « À vos marques pré-cherchées, la stratégie de Lisbonne », donc publié en 2008. On a un certain nombre d'effets de marchéisation, à savoir... la baisse des dotations ou des subventions et le financement par fonds propres, que ça soit des laboratoires, des projets de recherche, voire même des enseignements, des recrutements de vacataires. Hein, par exemple, à l'Université de Lorraine, le laboratoire ne peut pas faire avec 90 élèves, il doit faire deux groupes de 45 et pas trois, parce que ça coûte cher. Alors vous imaginez, deux groupes de 45, on est presque en situation de cours magistral, on est dans une situation intermédiaire, je dirais, entre le cours magistral et le TD. Alors, financement sur fonds propres, ça veut dire trouver de l'argent vous-même et peut-être qu'on complétera l'enveloppe. Hein. C'est un peu la logique et la stratégie de Lisbonne, c'est bien ça. Trouver des contrats de recherche, répondre à des appels d'offres, hein, et on complétera éventuellement donc l'enveloppe. Alors, par exemple, dernièrement, j'ai monté un projet de recherche sur les frontaliers, sur l'espace Allemagne, Luxembourg, Belgique, France. Ce projet de recherche a été noté, mais aucun fonds ne pouvait être donné, car l'année d'avant, on avait donné trop de fonds. Alors, vous êtes toujours très content d'apprendre que vous avez pris deux ou trois semaines pour budgétiser, penser un projet, mettre en relation avec l'Université de Sarrebruck de Luxembourg, par exemple, et qu'il n'y a, au final, pas de ressources. À tel point qu'on peut se demander, éventuellement, à quand le financement participatif, le co-funding, dans la recherche, hein, c'est-à-dire, bah, vous publicisez, que vous dites, j'ai un projet de recherche, qui veut donner pour ce projet de recherche ? Alors, je passe sur la question du gel de poste, hein, qui est évidemment corrélatif, mais qui, quand même, amoindrit les possibilités d'insertion sociale et professionnelle des jeunes chercheurs. Ensuite, la stratégie de Lisbonne consiste également à privilégier les recherches qui mènent à la compétitivité, à l'innovation et au brevet, d'où la différence entre les disciplines, encore une fois, hein, qui se font jour, étant donné que on comprend bien que les philosophes vont avoir du mal à breveter un concept qui pourrait être rentable sur un marché. Hein. Alors on comprend aussi l'enjeu. Il y a des enjeux économiques qu'il ne faut pas nier en ces matières, mais on comprend aussi que toutes les disciplines ne sont pas égales face à ce pilotage de la recherche en termes de gains de compétitivité et d'innovation. Enfin, il y a l'introduction de ce qu'on connaît déjà tous et qu'on appelle le benchmarking, c'est-à-dire la classification par la notation. Classification, encore une fois, des personnes comme des collectifs. On classe les revues, on classe les personnes par rapport à leur publication dans les revues, mais on classe aussi les laboratoires, les projets, les universités pour déterminer des pôles d'excellence. Hein. Le benchmarking est quelque chose qui se multiplie, car on connaît tous les notations des États, hein, le fameux triple A, tout ça. Et c'est ce qui crée cet espace de concurrence, cette marchéisation, car ça permet de réunir dans un même espace tous les laboratoires, toutes les universités, et de les rendre mesurables les unes par rapport aux autres, et de définir quelles sont les priorités, les universités ou les projets prioritaires pour les financements. Alors les conséquences, on les connaît, concurrence généralisée des personnes et des collectifs en fonction de critères réifiés, mais qui ne sont jamais préexistants hein, au final à la classification. Pilotage de la recherche par des objectifs économiques médiatisés par des méta-organismes de recherche qui dressent de grandes orientations mais qui viennent au final de programmes européens le plus souvent. Transformation des métiers dans les laboratoires. De plus en plus, les laboratoires doivent se transformer et inclure un nouveau type de personnel comme des personnes qui, justement, recherchent des projets, montent les projets. Donc, le deuxième temps, je vais essayer d'être vite, c'est les mutations de la société assurantielle, qui est la deuxième phase. En même temps que ça se marchéise, il y a un effritement de la société assurantielle ou de la société salariale. Les lieux d'intervention face à ces restrictions de budget modifient leurs pratiques de recrutement et on va de plus en plus vers des recrutements de personnes qui ont, par exemple, déjà un employeur principal, d'étudiants ou de retraités, parce que ces personnes coûtent moins en termes de charges sociales, de ce qu'on appelle les charges sociales, qui, à mon avis, est un terme faux, vu qu'une charge, c'est une cotisation. Hein, mais ça, on y reviendra, et que la cotisation, c'est du salaire, au final. Hein. Donc, quand on dit baisser les charges, on dit baisser les salaires. Hein, et il faut être clair sur les termes. Alors, ce faisant, on a aussi le phénomène que les jeunes docteurs au final, se retrouvent en concurrence avec ceux qui ne sont pas encore sur le marché du travail, les étudiants, avec ceux qui en sont sortis, les retraités, et avec ceux qui ont donc un employeur principal qui paye les cotisations, à savoir donc toutes les personnes qui ont déjà un emploi. On a aussi le développement, du coup, pour ces jeunes chercheurs, du statut d'auto-entrepreneur, terme encore une fois bizarre, vu que quand on est entrepreneur, on est toujours auto, mais bon, c'est le propre du terme qui montre bien que c'est devenir auto-employeur quelque part, c'est-à-dire passer dans un régime micro-fiscal. Mais tout ça, c'est sortir des protections de la société salariale, c'est sortir des cotisations retraite, des cotisations vieillesse, maladie, et c'est avoir ces cotisations indexées sur son chiffre d'affaires. Donc, au passage, je dirais que c'est vraiment à la limite de la légalité, cette proposition aux intervenants vacataires jeunes chercheurs de passer en auto-entrepreneur, vu que techniquement, ça doit être un choix volontaire. Donc, en effet, toutes ces mutations, d'un côté, marchéisation qui accroît la concurrence, et de l'autre côté, déconstruction de la société salariale, amènent à poser des nouvelles difficultés aux jeunes chercheurs et posent des enjeux en tant qu'insertion dans leur insertion sociale sont importants et qui dégradent le rapport à l'emploi, mais pas au travail, comme il a été dit. On aime notre travail, mais on est déçu de nos statuts d'emploi. Je dirais que ça pose des questions aussi à l'université, aux organismes de recherche en général. On voit lesquels, vu qu'on se dirige vers des pôles d'excellence. Et enfin, il y a des enjeux pour la communauté scientifique, car on assiste à une forme d'atomisation, de mise en concurrence, alors que, il faut le savoir, on ne travaille qu'ensemble, que même deux théoriciens opposés s'appuient l'un sur l'autre pour développer leur propre théorie, et que la science, comme le disait Hannah Arendt en citant Kant, que la correction de nos pensées tient à ce que nous pensons en communauté avec les autres, parfois contre aussi, mais en tout cas, que c'est cette réflexivité collective, comme le dit Philippe Corcus, qui fait avancer le travail scientifique. Je vous remercie.
Bonjour, je suis Guillaume Gernès, je parle tout à l'heure aux alentours de midi et demi, donc je me représenterai à ce moment-là. C'est une toute petite, c'est plus une remarque qu'une question sur la première intervention qui vous avez effectivement donné de bonnes pistes sur ce que les superviseurs ou les directeurs de thèse pourraient faire, et c'est plutôt une bonne chose avec certainement beaucoup de difficultés dans certaines disciplines. Pour mon cas personnel, j'avais un directeur de thèse très enthousiasmant, mais qui avait plus de 30 doctorants. Autant dire que c'était un peu difficile, et je me considère comme chanceux avec ce directeur, mais effectivement la communication était rare, et donc il y a des disciplines, en sciences humaines en particulier, où c'est pas une chose facile. Mais la plus grande difficulté à mon avis, c'est souvent, consciemment ou inconsciemment, cette volonté des directeurs de reproduire un schéma dans lequel, avant tout, c'est la difficulté, c'est dans la difficulté que le doctorant doit faire ses preuves. Et j'ai des cas assez précis sur lesquels je n'insisterai pas, où on m'a dit, après 3 ans et demi, que le directeur de thèse avait fait 2 remarques positives en 3 ans et demi. C'est peu. En tout cas, ça me paraissait peu, et c'est quelqu'un de très objectif qui me l'a dit. La preuve, c'est qu'elle se souvient du nombre. Donc, c'est un peu embêtant. Et là, c'est vraiment une question de mentalité qui est... on reproduit un schéma, et très vraisemblablement, même la jeune génération dont nous faisons partie auront peut-être tendance, si le cas se présente, à agir de la sorte. Donc c'est vraiment une sensibilisation, et je crois que des études comme la vôtre peuvent y mener. Voilà, c'est une petite remarque que je voulais faire. Merci.
Peut-être que vous allez répondre, je voulais signaler que je suis en train de préparer la traduction et la validation d'un questionnaire sur les relations entre directeurs de thèse et doctorants, justement, basé sur la question de l'alliance de travail. Et les collègues à qui j'en ai parlé, certains collègues, ouvrent de grands yeux. On sent que c'est une question sensible, en plus. Je ne sais pas si vous voulez compléter.
Oui, tout à fait. Mais par rapport à ce que vous dites, dans la question ouverte qu'on avait posée, bon, je n'ai pas repris le détail de ce que les personnes avaient répondu, mais c'est typiquement de ce genre d'exemple aussi qui revient. c'est la, le, voilà, le nombre de doctorants qui sont présents dans l'unité de recherche, c'est les remarques positives qui sont très faites. Donc c'est vraiment là où on doit sensibiliser les personnes. Est-ce que les superviseurs sont conscients du fait que ce manque de supervision peut mener au final à l'abandon de la thèse, qui, au final, n'est pas vraiment une belle image pour l'unité de recherche, n'est pas une belle image pour le promoteur de thèse. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment beaucoup sur la sensibilisation, et c'est très clairement, ça rejoint ce que vous mettez en évidence. Ouais.
Pascal Barbier, donc, je rebondis juste sur ce qui vient d'être dit. Ce que je vois, je suis un des grands chanceux de l'année dernière, je viens d'avoir un poste à Paris 1, et donc je découvre un petit peu auprès de mes collègues qui sont profs la manière dont ils envisagent l'encadrement d'une thèse. Et ce que je vois, ce n'est pas simplement leur activité d'encadrement plus ou moins bonne pendant la thèse, mais c'est aussi leur travail avant la thèse de persuader les candidats de ne pas faire une thèse. Et ça pose des questions gigantesques par rapport à ce que disait Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire si tout le monde fait ça par passion, on ne peut plus se payer le luxe d'exercer sa passion comme, j'imagine, on pouvait le faire jusqu'à il y a quelques années, c'est-à-dire s'engager en thèse sans que personne nous dise non, le marché du travail est affreux. Et aujourd'hui, ce que font la plupart des directeurs de thèse dans mon entourage, c'est de décourager à faire une thèse, ce qui est certainement, à mes yeux, une posture extrêmement responsable, dans la mesure où elle épargne de grandes désillusions, mais qui pose quand même de belles questions sur le sort de la recherche bientôt. Ça, c'était une toute petite remarque et peut-être une question pour Fabrice. L'enquête que vous avez présentée porte sur, donc si j'ai bien compris, des doctorants qui profitent d'un statut institutionnel, qui sont financés pour certains. La question qui se pose sur la satisfaction liée au travail de ces jeunes docteurs et jeunes chercheurs, c'est lorsqu'il n'y a plus de statut, justement quand on est au chômage, qu'il n'y a plus de structure encadrante, qu'il n'y a plus rien en fait. Est-ce que vous connaissez des travaux qui portent sur ces chercheurs-là et sur la perception de leur travail, de leur statut, etc.
Donc, par rapport à cette question du financement, qui, c'est vrai, donc est très important, c'est une variable qui a été prise en considération ici dans l'enquête. Donc, c'est une des variables qu'on a contrôlées pour donc le type de financement. Effectivement, on remarque que moins le doctorant est financé de manière, on va dire, stable. Et voilà, il y a aussi le cas des doctorants qui terminent leur thèse ou qui réalisent leur thèse au chômage, bah plus évidemment aussi l'attention quittée est forte. Et donc tout ce contexte est également pris en considération. Dans de recherches spécifiques sur les types de contrats, on sait que le type de contrat a une influence, mais je ne connais pas de recherches spécifiques qui mettent en évidence cela. Et par rapport à votre première remarque sur les superviseurs de thèse qui découragent les doctorants, je crois que il ne faut pas décourager, mais je pense qu'il faut quand même donner aux chercheurs ou à l'étudiant une image réelle de ce qu'est exactement réaliser une thèse. Je pense que, enfin, en tout cas, je parle un peu pour moi, on n'a pas une image très claire avant de commencer notre thèse de voilà, ce qui nous attend dans le processus. Et donc ça, par contre, c'est très important. Peut-être pas décourager l'étudiant, mais lui dire exactement à quoi il doit s'attendre pour réaliser dans le processus de thèse. Ça, je crois que ouais, c'est aussi primordial.
Si je peux intervenir personnellement, il y a en Belgique, et je suppose c'est la même chose en France, un double mouvement qui est un peu en contradiction. Il y a un mouvement de maîtrise, de métrique dans les évaluations, et un des indicateurs, c'est par exemple le nombre de doctorants. Par exemple, c'est international, je soutiens une jeune boursière au fonds luxembourgeois de recherche, on me demande le nombre de doctorants que j'encadre, de docteurs proclamés, de post-doctorants, etc. Donc il y a une espèce de quantification. Un bon chercheur doit avoir un certain nombre de doctorants. Donc ça, c'est une incitation à prendre des doctorants. L'autre aspect, c'est, en Belgique en tout cas, c'est que le doctorant n'est financé que s'il réussit, donc s'il est proclamé. Donc, pour l'instant, les universités, tant qu'il n'est pas proclamé, n'ont aucun intérêt financier parce que ce n'est pas financé, tout simplement. Donc, les recherches sur les abandons sont aussi instrumentales parce que c'est considéré comme une perte. On doit les maintenir au moins jusqu'à la proclamation pour pouvoir toucher. Donc, vous voyez, il y a des mouvements un peu divers qui poussent à avoir des doctorants, d'autres qui disent qu'il faut, comme le doctorant coûte, en tout cas chez nous, à l'université, prend du temps, alors que là, on devrait voir l'ensemble de la charge de travail des enseignants-chercheurs qui dans le contexte actuel est très lourd, fait en sorte que la supervision, etc., devient parfois une espèce de proximité, une espèce de luxe.
Merci. Bruno Bost, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Sud, dans laquelle je suis chargé de mission auprès de la présidence pour tout ce qui concerne la formation doctorale. Donc je suis ravi de pouvoir écouter tout ça pendant une journée et demie. J'aurais une question sur l'étude de Fabrice. Par rapport à la question du superviseur, est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez pris en compte dans votre enquête la nature des collectifs de recherche auxquels sont rattachés les doctorants ? Parce qu'on sait très bien qu'on a une très grande hétérogénéité disciplinaire sur cette question-là. On a des disciplines dans lesquelles le directeur de thèse n'est pas le seul à participer à l'encadrement du doctorant, alors que dans d'autres, au contraire, les doctorants sont dans des situations où les collectifs de recherche sont très atomisés. Est-ce que vous avez regardé ça ? Et si oui, est-ce que ça c'est un élément d'explication sur la problématique de l'intention de quitter ?
On a regardé donc le domaine de recherche dans lequel le doctorant menait sa thèse, mais on n'est pas allé plus loin dans la compréhension, en tout cas, parce que c'était assez compliqué de rentrer dans la particularité, évidemment, de chaque équipe et de chaque individu. Donc on a pris en considération le domaine de recherche, le collège doctoral, comme on appelle ça, donc la faculté, mais on n'a pas été plus loin dans la précision, en tout cas, de ce que vous mettez en évidence.
Éric Martel, doctorant à l'Université de Paris-Sud, en gestion. Alors, effectivement, élu aux instances de l'Université de Paris-Sud, nous, ce qu'on constate dans notre université, c'est qu'on a des cultures académiques qui sont très, très différentes. Et est-ce que ça se voit dans votre étude ? C'est-à-dire qu'en fait, on a des pratiques de direction de thèse qui sont... on a des formes de statut qui sont tout à fait différentes en fonction des disciplines. C'est-à-dire qu'on a par exemple en biologie ou en sciences exactes des modes de fonctionnement qui correspondent exactement, qui correspondent de manière beaucoup plus proche à celui d'un salarié classique. Et dans des disciplines, dans les sciences humaines, j'ai en exemple par exemple le droit, on a des pratiques académiques qui nous rappellent beaucoup plus les ouvrages de Bourdieu sur la culture académique. Est-ce que ça, vous avez pu le voir dans votre étude, ou est-ce que...
À nouveau, on n'a pas pu tout faire dans l'étude, mais ce qu'on remarque, en tout cas, c'est qu'en fonction des domaines de recherche, de nouveau, il y a des différences dans l'attention quittée ou bien même dans la charge psychosociale perçue en fonction du niveau en fonction du domaine de recherche. Et notamment, c'est vrai, dans les sciences, entre guillemets, dites dures, on remarque que l'attention quittée est plus forte par rapport aux sciences humaines, par exemple, mais voilà, encore une fois, on n'est pas allé dans la particularité de ces différentes disciplines.
Voilà, on reprend la deuxième partie donc du symposium avec deux présentations, l'une de Damara Gut sur être jeune chercheur en sciences humaines et sociales et boursier CIFRE, et qui sera enchaînée avec celle de Clara Paquet sur précarité à l'université en Allemagne aujourd'hui.
Voilà, bonjour, donc je me présente rapidement, j'ai soutenu mon doctorat... C'est bon, ça a mieux ? Ouais. Donc j'ai soutenu mon doctorat en didactique des langues avec le multimédia l'année dernière à l'université Littroix. On n'entend toujours pas. Oui, on va l'approcher, pardon. Oui, voilà. Et je suis postdoctorante donc, au laboratoire Cécile à l'université Littroix où je travaille sur l'insertion professionnelle des jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales. Je suis également jeune maman, je suis également auto-entrepreneur, mais je reste optimiste. Je me retrouve dans plein de présentations. Donc voilà, il semblerait que dans le contexte actuel de la conjoncture économique détériorée, le plus haut diplôme de l'enseignement supérieur en France, à savoir le doctorat, représente une assurance contre le chômage et la précarité. Nombreuses études et rapports démontrent pourtant que les jeunes chercheurs doivent faire face à des difficultés d'insertion croissantes. La situation varie selon les disciplines de recherche. Il semblerait que les docteurs en SHS seraient plus touchés par le chômage que les autres docteurs et moins facilement enclins à rejoindre le secteur privé. Le doctorat SHS serait-il un handicap ? Il y a déjà quelques visuels. Nous allons présenter dans un premier temps un tour d'horizon concernant le doctorat SHS. pour nous focaliser ensuite sur un groupe spécifique, celui des doctorants en sciences humaines et sociales et bénéficiaires d'une CIFRE, donc Convention industrielle de formation par la recherche. Dans un deuxième temps, nous avons choisi de présenter deux témoignages de doctorants SHS CIFRE qui analysent leurs expériences, une réussie, l'autre plutôt négative, et ces propos nous serviront de base pour proposer quelques conclusions, propositions. Voilà, donc, doctorants SHS, quelques chiffres. En ce qui concerne donc, les effectifs au niveau, on voit bien, ouais, au niveau national, le nombre de docteurs augmente chaque année en France, donc d'environ 2% pour atteindre en 2013 64 000. En 2013, les effectifs en sciences sont les plus importants, donc 45%, tandis que les lettres, langues et sciences humaines représentent plus d'un tiers des inscrits, donc 34%. En ce qui concerne l'âge, toutes disciplines confondues, lors de leur inscription en première année, 42% des docteurs ont moins de 26 ans, 34% sont entre 26 et 30 ans. Cette répartition par tranche d'âge varie bien évidemment selon la discipline. Donc l'âge moyen des doctorants en SHS est supérieur à la moyenne des autres secteurs disciplinaires. Et cela reflète la présence d'un nombre important des doctorants déjà engagés dans une activité professionnelle en recherche, par exemple l'enseignement de second degré. La part des femmes dans l'effectif global des doctorants est de 48% en 2012-2013 et reste stable. Toutefois, on observe une grande disparité, encore une fois, selon les disciplines, et elle dépasse les 50%, notamment en sciences humaines et sociales. En lettres et langues, elle atteint le maximum, donc 67%. Le financement du doctorat en 2012-2013, le financement relève pour 31% de contrat doctoral et pour 10% d'une convention CIFRE. Là encore, la situation va varier selon les disciplines. Donc à l'entrée 2012, seul un tiers des doctorants en SHS a obtenu un financement dédié, contre 79% des doctorants inscrits en sciences. Quant aux projets professionnels, les préférences varient, encore une fois, selon le champ de recherche. Donc, de façon globale, les docteurs de toutes disciplines ont une préférence pour la recherche académique et publique. 3 ans après la thèse, le type d'insertion professionnelle confirme cette préférence. Notons que 5 ans après la soutenance de thèse, ce sont les docteurs en SHS, donc 61%, qui sont le plus souvent en emploi dans le secteur public et académique. Le secteur hors recherche constitue quand même un débouché réel pour les docteurs SHS, puisque un quart d'entre eux y travaillent en 2012. Quant à la durée du doctorat, les durées des thèses et les révolutions sont fortement liées aux modalités d'encadrement et de financement et varient selon les disciplines. En ce sens, près de 30% des doctorants en sciences humaines et sociales des thèses en sciences humaines et sociales sont conduites en plus de 6 ans et seulement 15% en moins de 40 mois, qui est donc la durée souhaitée. Donc, en ce qui concerne les compétences, on en parle énormément. Selon l'association ABG, donc Intelliagence, les compétences attendues des docteurs, toutes disciplines confondues, sur le marché de travail sont les suivantes, donc expertise scientifique bien évidemment, communication, gestion de projet, travail prospectif, pensée analytique, gestion de l'incertitude et du changement, interdisciplinarité et pluriculturalité. Quant à les réquisitions réelles, les résultats par discipline montrent des disparités au sein de l'acquisition des compétences scientifiques et transférables. Notons que ce sont encore une fois les diplômés des sciences humaines et sociales qui semblent les moins bien préparés dans l'acquisition de ces compétences. Il accuse un déficit de compétences en communication, en compétences relationnelles, en management, en direction d'équipe, mais aussi en gestion de projet. Ce sont les doctorants SHS qui pensent posséder le moins de compétences d'adaptation et d'innovation. Il affirme également ne pas avoir réalisé leur thèse intégrée donc dans un laboratoire. Là, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est une étude de CEREC dans le cadre de dispositif génération. Donc là, on va passer. Donc, en ce qui concerne l'insertion professionnelle, les données nationales et internationales sur l'insertion des docteurs montrent que le champ disciplinaire de la thèse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est réalisée, sont déterminantes pour le processus d'insertion. De fait, les docteurs n'ont pas les mêmes chances d'accès à l'emploi dès leur inscription. Ainsi, les docteurs en SVT, chimie et SHS ont plus de difficultés à trouver un emploi dans les premières années de vie active, tout comme ceux n'ayant pas bénéficié de financement durant leur thèse. De plus, les enquêtes montrent que les réelles difficultés que rencontrent les docteurs sur le marché du travail résident essentiellement à l'accès, dans l'accès rapide à l'emploi stable, pour ne pas enchaîner justement des contrats. Donc, dans ce contexte global, les doctorants SHS, on peut constater qu'ils les doctorants SHS se caractérisent par plusieurs spécificités par rapport aux doctorants d'autres champs disciplinaires. Donc, ils sont généralement plus âgés au moment de l'obtention du diplôme. Leurs recherches sont majoritairement pas financées. Parmi les doctorants en SHS, on compte plus de femmes et d'étudiants étrangers. Ils envisagent dès le départ de devenir enseignants-chercheurs et considèrent les autres voies de carrière comme un échec. Leur doctorat dure plus longtemps. Leur premier emploi est le plus souvent un poste à temps partiel. Ils commencent le doctorat par passion, donc pour le sujet, et sans définir leur projet professionnel concret. Ils réalisent leur thèse plutôt isolée, peu encadrée, et notant également que ce sont eux qui semblent donc les moins bien préparés dans l'acquisition des compétences transférables. Donc, dans ce contexte, nous allons mener une réflexion sur un groupe donc particulier au sein de la population des jeunes chercheurs SHS, donc à savoir les bénéficiaires d'une convention CIFRE. Cette population est encore minoritaire, mais a fort potentiel de développement et se caractérise donc par le taux d'obtention de diplômes très élevé. 93% des doctorants, toutes disciplines confondues, soutiennent leur thèse, ainsi que par l'insertion professionnelle sur le marché du travail réussi et diversifié. En matière de débouchés, 96% d'entre eux obtiennent un emploi dans la première année suivant la soutenance. Et c'est très souvent un CDI. Donc, très rapidement, l'évolution du nombre de CIF en France. Donc, le nombre de demandes progresse de manière continue. Et les doctorants CIF représentent donc 10% des doctorants bénéficiant d'un financement de thèse. On observe donc une nette progression des signatures de CIF dans le domaine des SHS. Elle représentait en 2005-2006 15%. En 2007, 17%, et aujourd'hui, nous sommes à 24%, donc c'est vraiment une progression importante. En ce qui concerne la répartition géographique, donc les chiffres sont présents dans toutes les régions françaises, mais c'est la région Île-de-France qui concentre 40%, suivie de Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Midi-Pyrénées. Donc, en ce qui concerne, j'ai déjà mentionné très rapidement, l'accès au premier emploi, les doctorants CIF donc, accèdent beaucoup plus facilement à l'emploi, donc 96% en un an et plus de 70% en moins de 3 mois après la soutenance. En ce qui concerne donc les employeurs, les dispositifs CIF contribuent donc à l'emploi des docteurs dans les entreprises, grandes et petites. Et en effet, 2/3 des docteurs CIF travaillent dans une entreprise, dans tous les secteurs d'activité. 1/3 travaille dans le secteur public. 1/4 occupe des fonctions dans l'enseignement supérieur et la recherche publique. Je vous propose maintenant de faire un zoom donc, sur deux parcours. Il s'agit de deux femmes. Donc Marie, qui est doctorante en histoire environnementale, et Sarah, qui est doctorante en sciences de l'information et de la communication. Elles ont participé donc à une enquête et ce qui est intéressant, c'est donc je vais vous présenter donc les réponses à 4 questions. Et vous allez voir qu'on a affaire à deux parcours, donc une expérience plutôt réussie et une autre qui est plutôt négative. Et on va justement voir peut-être pourquoi ça a marché et pourquoi ça n'a pas vraiment abouti. Donc, à la question pourquoi avez-vous choisi de faire votre thèse en chiffres, donc Marie, sur un conseil, elle était encadrée, elle était conseillée par la personne qui est devenue ensuite son directeur de thèse, son tuteur scientifique. Et de l'autre côté, on a Sarah qui venait déjà du monde de l'entreprise. Et pour elle, c'était vraiment un projet professionnel parce qu'elle mentionne également donc, des conditions salariales qui étaient très avantageuses pour une chiffre. Donc, ces deux témoignages démontrent l'importance donc, de l'encadrement d'un côté et de l'expérience du jeune chercheur. Il faut noter qu'en SHS, les doctorants ont finalement dans leur parcours, si on arrive au doctorat, on a très peu d'occasion de connaître le monde extra-académique parce que c'est le parcours donc master recherche, on n'a pas de stage ou très peu, on ne connaît pas l'entreprise, donc tout naturellement, on ne va pas se tourner vers les chiffres, vers cette voie qui semble assez étrange et c'est un peu flou. Et donc, ce qui est important aussi, c'est l'encadrement. Marie avait de la chance d'être bien encadrée par quelqu'un qui a aussi des missions au sein de conseil régional. Donc, c'était un professeur qui était bien informé de ce qui était possible, ce qui se faisait. Mais encore une fois, nos encadrants, très souvent, ont suivi le même chemin que nous. Donc, uniquement la recherche universitaire. Et ils ne vont pas nous conseiller d'aller faire une chiffre. Parce que pour eux, ça, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas la voie traditionnelle. Donc, pour la deuxième question, quelle compatibilité entre l'entreprise et les docteurs en chiffres? Marie nous parle avant tout de... Ah, 3 minutes, je me dépêche. Avant tout d'une adaptation mutuelle, donc elle souligne l'importance de... des questionnements, notamment des limites méthodologiques de sa discipline. Et de l'autre côté, donc, c'est une adaptation mutuelle de la part de l'entreprise et de sa part. Sarah évoque quelques problèmes, notamment quand elle a décidé dans sa recherche d'adapter une posture plutôt critique, hein, par rapport au marché sur lequel évoluait l'entreprise, et notamment au temps de la recherche, parce qu'il s'agissait dans son cas d'une étude plutôt sociologique, elle avait besoin de temps pour arriver au résultat, et donc l'entreprise lui mettait une grande pression par rapport à ça, parce que dans le temps de l'entreprise, il fallait que ça avance vite, et ils attendaient des résultats concrets très rapidement. Donc on voit que... il semblera en tout cas que ce sont les difficultés rencontrées sur le plan éthique, qu'on peut appeler éthique, ou sur le plan des valeurs, donc à court, moyen et à long terme, qui peuvent influencer ou même décourager les doctorants SHS qui ont commencé une chiffre. Pour la question dans quelles conditions de réussite d'un contrat chiffre donc spécifique au doctorant SHS, on a encore une fois Marie qui souligne la communication et notamment donc l'engagement de tuteurs scientifiques, hein, qui, dans son cas, était bien présent, et c'est un parcours hein, donc, qui aboutit, qui réussit. Et pour Sarah, donc, elle nous dit la même chose, mais justement, à cause de son expérience négative, donc discuter avec le directeur de thèse, elle parle d'un engagement vraiment indispensable, et pourquoi pas d'une rencontre donc, entre l'entreprise et le directeur de thèse, ce qui ne se fait pas de façon automatique. Donc le vrai défi pour Sarah était de rester fidèle à sa discipline et de défendre sa posture d'une chercheuse appliquée au sein d'une entreprise. Et il semblerait que plusieurs facteurs sont déterminants dans cette perspective de chiffres SHS. Donc la communication qui passe par la discussion, négociation, le dialogue régulier et le suivi dans le laboratoire, donc à l'université. Une dernière question, et je vais passer aux conclusions. Donc, quelle voie d'insertion envisagez-vous? Donc, Marie, pour elle, donc, son chiffre a abouti et c'est très bien passé. Donc, elle va postuler dans des entreprises privées. et Sarah, qui, dès le départ, avait l'envie d'être, ce souhait de devenir enseignante-chercheure. Elle va continuer donc dans ce sens parce qu'elle a abandonné son CIFRE, mais elle a continué sans financement une thèse donc, qu'elle va soutenir donc, très bientôt. Donc, sur cette base, Sur cette base, je propose quelques conclusions, propositions. Donc, il semblerait que les CIFRES en SHS donc, pourraient être la solution au problème d'insertion des doctorants, mais à certaines conditions. Donc, il s'agirait notamment d'impliquer davantage les directeurs de thèse et les écoles doctorales, donc pour le conseil, la mise en relation, expérience dans le secteur extra-académique qui viendrait donc en amont d'une CIFRE, et aussi le dialogue avec les entreprises. Donc, il s'agirait ici de passer donc, de cette relation triangulaire hein, qui est plutôt privilégiée aujourd'hui, donc en un laboratoire doctorant et l'entreprise, vers un encadrement un peu plus, je ne sais pas si on voit très bien, vers un encadrement un peu plus spécifique et à plusieurs niveaux, donc entre le doctorant, le laboratoire, l'entreprise, mais aussi l'école doctorale, et le directeur de recherche qui serait plus présent, et notamment en dialogue avec l'entreprise. Donc, deuxième proposition, c'est investir pour les SHS le secteur de la fonction publique, hors enseignement et recherche, où les compétences spécifiques aux SHS pourraient être exploitées. Et notons qu'en France, seulement 4% des docteurs sont employés dans ce secteur, contre 20 à 35% des doctorants insérés dans le public administratif, dans les pays membres de l'OCDE. Donc, on a une marge de manœuvre, de progression. Et aussi, donc, rechercher les employeurs, pourquoi pas, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, organisations du secteur public et non marchand, donc les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations. Et selon la dernière étude de l'APEC, donc les candidats à des postes cadres dans l'ESS, ont des profils qui correspondraient aux doctorants SHS. Je me dépêche. Je vais terminer donc sur ce nuage des mots qui sont tirés des CV des candidats qui postulent majoritairement à des offres émises par les entreprises SHS, où on peut retrouver justement les compétences et les valeurs qui sont propres aux SHS. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour. Alors, Clara Paquet, je vous indique un rattachement institutionnel de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, mais je suis actuellement en recherche de poste au chômage entre la France et l'Allemagne. Et donc, je ne vais pas trop, vous expliquer qui je suis, parce que ça va être dans mon papier. Mais je peux juste peut-être rappeler, je suis docteur de l'EHESS, donc c'est aussi intéressant de parler là aujourd'hui dans cet amphi. Donc, dans l'enquête réalisée en 2009 par l'association GIRAF, groupe interdisciplinaire de recherche Allemagne-France, intitulée « L'insertion professionnelle des jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales entre la France et l'Allemagne », bilan, témoignage et perspectives d'amélioration. On peut lire à la page 3. En Allemagne, au contraire de la France, le titre de docteur est perçu comme une manière d'augmenter les chances de décrocher un travail et d'obtenir une bonne rémunération, y compris hors du cadre universitaire. Je voudrais donc, 6 ans plus tard, revenir sur ces déclarations et montrer comment, à l'appui d'articles publiés récemment dans la presse allemande, qu'aujourd'hui en Allemagne, le titre de doctorat, d'autant plus en sciences humaines, est perçu comme un inconvénient plus qu'un avantage, et que l'on assiste à une réelle dévalorisation de la formation universitaire. D'un côté, les diplômés de l'université, et plus particulièrement les docteurs, représentent un frein et un danger face à la flexibilité contrainte par le marché du travail qui rejette les éléments surqualifiés. De l'autre, à l'université tente toujours plus clairement d'intégrer les pratiques à court terme d'une économie de marché, imposant ainsi des conditions de travail de plus en plus précaires au personnel universitaire que représentent en majorité les doctorants et les post-doctorants. C'est donc mon expérience professionnelle de jeune chercheuse en Allemagne qui m'a conduite à m'intéresser au contexte académique allemand et plus particulièrement à un livre récemment paru d'un jeune philosophe qui s'appelle Armen Avanessian. Donc, je traduis le titre. Le Überschrift, ça veut dire titre. Éthique du savoir, poétique de l'existence. C'est paru en 2014 et la couverture paraît étrange, mais elle reprend en fait le titre exact du livre avec les indications de la maison d'édition, etc. sont sous cette couche grise qui reprend cette matière qu'on gratte sur les millionnaires, etc. Mais ça, je vous parlerai de ce livre un petit peu après. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer par vous présenter mon parcours, car c'est davantage à partir de mon expérience professionnelle que je vous parle aujourd'hui que du point de vue de ma discipline qui est la philosophie. Je suis titulaire, comme je vous l'ai dit, d'un doctorat de l'UHESS avec comme spécialité l'esthétique et plus particulièrement l'esthétique allemande. Pendant mon parcours de thèse, j'étais boursière au Centre allemand d'histoire de l'art à Paris. Expérience très enrichissante qui, en plus d'un revenu mensuel, a augmenté mon profil d'un caractère à la fois binational et interdisciplinaire. J'ai obtenu ensuite un financement de fin de thèse du DAAD et du CIRA et j'ai été accueillie à la Freie Universität à Berlin pour plusieurs mois. Avant même la fin de ma thèse, on m'a proposé un contrat postdoctoral au centre Marc Bloch à Berlin que j'ai pu signer tout de suite après la soutenance. Il s'agissait d'un projet franco-allemand financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et la DFG, qui est l'équivalent de l'ANR côté Allemagne. Dans un contexte de recherche similaire à ce que j'avais fait jusqu'à présent avec ma thèse, esthétique allemande et coopération avec des historiens de l'art. Après cette première expérience postdoctorale, j'ai eu l'opportunité de travailler pendant 3 ans dans un projet ERC, European Research Council. C'est très difficile d'obtenir un projet européen avec des financements énormes, qui était comparé à beaucoup d'autres projets qui ont du mal à rassembler des fonds suffisants. Et ce projet était hébergé par le Centre allemand d'histoire de l'art, où j'avais été boursière. Mais je suis restée à Berlin car l'équipe était européenne et sur plusieurs villes. Ce projet consistait en une enquête historique sur le rôle croissant que joue la notion de réel au sein des pratiques artistiques en France, en Allemagne de l'Ouest, en Allemagne de l'Est et en Pologne à partir des années 1960 et jusqu'en 1989. La directrice de ce projet était historienne de l'art et l'objectif premier de cette enquête était la constitution d'une base de données. Il serait d'ailleurs également intéressant d'aborder ce point. La croissante nécessité pour de nombreux projets en sciences humaines d'être pensés, si ce n'est vendus, comme des entreprises dont les résultats pourront être clairement quantifiés à la fin du projet, afin d'obtenir un financement. Mais je n'aurai pas le temps d'aborder ce point. On pourra en parler dans la discussion. Le poste de postdoctorant de ce projet ERC était donc pensé pour un philosophe dont la tâche était d'apporter un regard théorique et conceptuel sur la matière empirique collectée. Il s'agissait en majorité de documents qui provenaient de la presse artistique spécialisée de la période concernée. Une fois mon contrat arrivé à terme, il n'a pu être renouvelé et je suis depuis un an au chômage en Allemagne. Cette situation me permet d'approfondir ma connaissance des administrations allemandes qui assurent le suivi des chômeurs, qu'ils soient universitaires ou non. Mais surtout, elle me contraint à faire le constat suivant. Le système universitaire allemand n'est pas celui que j'avais imaginé. Dans un certain sens, mon parcours paraissait comme prometteur, une expérience à la fois internationale et interdisciplinaire, deux mots-clés omniprésents dans les discours de la recherche depuis plusieurs années. Et pourtant, un profil comme le mien peut mener dans une impasse au regard du contexte allemand. Les conditions de travail du personnel enseignant et des chercheurs en Allemagne sont alarmantes. On assiste à la normalisation massive d'une flexibilité abusive imposée aux salariés. Les lois du marché sont entrées à l'université. En outre, la situation est aggravée par un idéal quasi romantique du chercheur, encore plus fort en sciences humaines et sociales que dans les sciences dites dures. Un enseignant-chercheur, un Wissenschaftler, un scientifique, mais le terme est d'usage en Allemagne dans toutes les disciplines. Donc un scientifique doit être passionné, se montrer prêt à travailler beaucoup et gagner peu, à la manière d'un artiste dont la génialité ne pourrait s'épanouir que dans la pauvreté parce qu'elle rimerait avec liberté, non compromission. Précarité ne rime ici pourtant aucunement avec liberté et comme en témoigne par exemple la conférence de Max Weber, la science comme profession ou vocation, Wissenschaft als Beruf de 1917, l'entrée du capitalisme dans le monde académique n'est pas un nouveau phénomène. Or, le contexte de crise actuelle tend à accentuer les inégalités et la situation d'exploitation dans laquelle la majorité du personnel universitaire que l'on appelle le wissenschaftliches Prekariat, autrement dit la population scientifique précarisée, se trouve piégée. Quelques chiffres. Selon le plus récent rapport du ministère de l'Éducation et de la Recherche, 84% des jeunes chercheurs dans les universités allemandes sont titulaires d'un contrat à durée déterminée, la grande majorité à temps partiel. La situation classique est la suivante. À partir du doctorat, on enchaîne les contrats d'un an. Quand on est docteur, on est considéré comme salarié. Et là, si on a de la chance, on a 3 ans, mais parfois c'est seulement 6 mois. Donc à partir du doctorat, on enchaîne les contrats d'un an, 2 ans, voire 3 ans, et si l'on a de la chance, renouvelable 2 ans. Cette situation peut durer jusqu'à 12 années. C'est la durée officielle limite, la durée limite autorisée, jusqu'à l'obtention d'un poste de professeur. Plus la moitié de ces contrats sont d'une durée inférieure à 1 an. Passé les 12 années, la majorité des enseignants-chercheurs se retrouvent habilités, mais sans professoir, sans poste de professeur, expulsés ainsi du système universitaire, où ils n'ont plus le droit d'exercer, et ils se retrouvent donc à plus de 40 ans, entre 40 et 45 en moyenne, au chômage. Il faut ajouter à cette situation d'incertitude le taux de rémunération extrêmement faible du personnel scientifique en charge de l'enseignement. Une heure de cours magistral ou de séminaire est rémunérée environ 25 euros de l'heure. Préparation, approfondissement, correction des copies ne sont pas rémunérés. Si on fait le calcul, de nombreux Dozenten, c'est comme ça qu'on appelle le personnel enseignant, gagnent encore moins que le salaire minimum autorisé, fixé à 8,50 euros de l'heure et qui vient juste d'être voté en janvier. En Allemagne, seulement 16% du personnel universitaire possède un CDI et parmi eux, les professeurs, dont la rémunération, ça peut donner juste une idée visuelle, seulement 16% du personnel universitaire possède un CDI et parmi eux, les professeurs dont la rémunération mensuelle avoisine les 6000 euros. Ce qui, après, dans le monde de l'économie, ne serait pas beaucoup, mais par comparaison, les inégalités de rémunération sont aussi énormes. Depuis une vingtaine d'années, la situation ne cesse d'empirer et l'on assiste à l'exploitation, auto-exploitation, on peut se poser la question, tranquille du personnel enseignant et scientifique au sein des universités. Selon Peter Grotzian, enseignant à la FU, donc une des universités de Berlin, en sciences politiques à la retraite, et initiateur d'un mouvement en 2010. Selon lui, donc, 90 000 enseignants sont dans cette situation. Dans ce contexte, nombreux sont les scientifiques qui quittent l'université allemande pour des universités à l'étranger, ou bien pour le secteur économique, pour le secteur économique. Et pour finir, dans cette liste de chiffres, précisons que ces 6 dernières années, le nombre d'étudiants a augmenté de 22%, pendant que le nombre de postes de professeurs, lui, a évolué seulement de 10%. Donc un mouvement de protestation contre ces conditions de travail précaires prend forme de manière plus affirmée. Depuis quelques mois, des pétitions, des manifestations tentent de donner une visibilité à ce problème et d'instaurer un dialogue à bâton rompu avec le ministère de l'Éducation et de la Recherche. Le contexte universitaire allemand est malheureusement peu politisé et peu syndicalisé, ce qui explique le manque de discussion et donc de marge de négociation dans le paysage académique sur les conditions de travail, la rémunération et les perspectives pour l'avenir. On assiste cependant depuis quelques mois à un débat dont les journaux se font l'écho en publiant toujours plus d'articles sur le sujet. Il est important, enfin, de mentionner, il y avait une version française, en plus de le manifeste de Templin, qui est d'abord passé trop inaperçu et qui gagne en visibilité dans ce contexte. Et ce manifeste résulte de la 4e conférence sur l'enseignement supérieur et la recherche, qui est organisée par le syndicat pour l'éducation et pour la science, qui s'est tenue en 2010 à Templin, dans une petite ville au nord de Berlin. Ce manifeste développe 10 points, ses revendications. Peut-être je ne vais pas vous énumérer, mais vous pouvez les lire pendant que je poursuis. Et donc, dans le contexte de cette mobilisation nouvelle, et j'arrive à ma conclusion, L'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, je pourrais aussi les reprojeter tout à l'heure, les fameux 10 points, mais qui reprennent des choses qu'on a déjà énumérées depuis ce matin. Je reviens au livre de Avanessian, Éthique du savoir, poétique de l'existence, et qui aborde de front le problème de la précarisation du personnel enseignant des universités. Il tente ainsi de briser le tabou, car il s'agit bien d'un tabou, l'absence d'organisation politique des premiers concernés au sein des universités en témoigne. Avanessian tente d'interroger d'un point de vue théorique son expérience d'enseignant-chercheur. Lui, il enseigne la théorie de l'art dans une école, dans une académie d'art. Et il tente de présenter donc son expérience comme le symptôme d'un phénomène plus large concernant la précarisation des conditions de travail et la grande discrétion des débats politiques internes à l'université. On assiste effectivement au sein du monde universitaire allemand à l'implantation durable d'un non-dit. Si nombreux sont les séminaires et les publications qui tentent d'analyser d'un point de vue critique les conditions d'émergence du savoir et l'exercice du pouvoir en général, les cours sur Michel Foucault, par exemple, c'est les séminaires dans chaque université, il y en a des dizaines à chaque semestre. La mise en question des formes de l'institution électorale telle qu'elles existent dans le monde académique demeure marginale. Et Avanessian apporte une contribution nécessaire, il me semble, à ce débat, car il tente d'analyser la situation des chercheurs au regard de la forme de l'institution, de l'exercice du pouvoir dans la production de savoir, afin de tracer un portrait, non pas sociologique ou psychologique, mais philosophique de la génération des jeunes chercheurs allemands. Et son diagnostic est mauvais, les jeunes chercheurs sont névrosés, dépressifs, tristes, complices d'une énorme machinerie d'auto-exploitation. Et en réponse à cette mélancolie du chercheur, et quasi à la manière de Nietzsche dans sa généalogie de la morale, Avanessian veut, avec son livre, placer le désir, la joie, l'affirmation, l'action, et non seulement la réaction passive, l'humour, au sein de l'université, où la culture du conflit devrait être constamment mise à l'épreuve et à l'honneur. En quoi les individus... Alors donc le système, comme on le constate, de précarisation en place s'installe durablement, et en quoi les individus qui le constituent jouent-ils un rôle moteur dans l'aggravation de la situation? Le personnel universitaire ne se laisse-t-il pas enfermer dans une logique d'approbation passive, esclave d'une vision carriériste étroite qui finit de toute façon par se retourner contre lui et dont les ressorts seraient la peur et la haine de soi? C'est, disons, la ligne qu'il trace dans ce livre qui a fait beaucoup de bruit, et de nombreux collègues lui ont dit « tu n'oseras pas publier ça ». Et il l'a fait.
Il l'a traduit aussi?
Non, ce n'est pas traduit. Donc c'est sorti récemment, en octobre 2014. Il n'y a même pas de version anglaise encore. Peut-être qu'il y a des traductions en cours, je vais me renseigner. Donc je vous remercie.
Je reviens sur la problématique CIFRE-SHS. En fait, moi je suis frappé d'une chose, c'est que ce que j'ai entendu, en particulier sur la problématique... la relation avec l'entreprise et du conflit potentiel entre la logique de l'entreprise, la logique du projet de recherche et le positionnement du doctorant sur ces questions-là, est clairement pas une problématique SHS. Enfin, je veux dire, c'est un problème qu'on a sur toutes les thèses CIFRE, quel que soit le domaine, puisqu'il faut quand même rappeler une chose, c'est que pour l'entreprise, la thèse CIFRE, c'est aussi un excellent moyen d'avoir du personnel qualifié à moindre coût, puisque le niveau de subvention de l'État sur ces contrats, qui peuvent être des CDD ou des CDI d'ailleurs, pour les doctorants, est très très important. Donc ça c'est quelque chose, et effectivement la spécificité c'est peut-être aussi la force que peut avoir l'université à travers les écoles doctorales ou ce genre de structure-là, à forcer la négociation obligatoirement en amont sur ces questions-là. Mais je pense que c'est vraiment une problématique qui est commune à toutes les disciplines, qui est on fait rentrer de la recherche dans une entreprise, donc on a forcément un choc de culture, un choc de temporalité, un choc d'enjeu, un choc d'objectif qui se produit à ce moment-là, donc c'est des choses qu'on va retrouver sur d'autres disciplines. Enfin,
je suis tout à fait d'accord, ça peut être tout à fait, ces conclusions peuvent être élargies, mais mon parti pris était de travailler sur des profils SHS, mais en tout cas ça confirme qu'il y a ce souci-là, voire d'autres qui sont plus spécifiques en discipline SHS, tout à fait.
Je suis Farah Dubois de Belgique, de l'Université catholique de Louvain. Et en fait, la question, c'était un petit peu pour vous deux. Vous avez parlé, Dagmara, de sentiments des doctorants. Je pense que c'était vraiment une étude plus large sur plusieurs universités en France, sur le sentiment d'échec quand on ne continue pas ou quand on ne poursuit pas la voie universitaire. En fait, est-ce qu'il y a des résultats sur quel type de sentiment d'échec ? Est-ce que c'est sur les compétences ou le salaire, le barème, etc. Parce que, par exemple, en Belgique, en SST, il y a beaucoup de doctorants qui se plaignent en reconversion vers l'industrie, etc., de rester sur le barème d'ingénieur, par exemple. Et donc, il n'y a pas vraiment une valorisation du grade de doctorat.
Dans le monde extra-universitaire.
Voilà. Mais donc, en termes des résultats qui ont été menés, est-ce qu'il y a une différenciation par rapport à ce sentiment d'échec ? Donc, dans quel sens ?
Là, je me suis appuyée principalement sur les études de CEREC, mais il y a d'autres études qui abordent ce point de sentiment d'échec, de sorte de manque de valorisation. Et pour les doctorants SHS, ce sont eux qui, au moment déjà de l'inscription en doctorat, mais également au moment de la soutenance, donc ça n'a pas bougé énormément pendant ces 3, 4, voire 6 ans pour certains en SHS, ils ne vont pas changer de projet professionnel. Il y a une seule voie royale qui est privilégiée, c'est devenir enseignant-chercheur dans une université. Et assez souvent, ils ne vont même pas envisager de plan B, parce que pour eux, déjà, on peut vraiment rebondir sur ce que vous avez dit, parce qu'ils vont évoluer dans une sorte de d'illusion, pardon, quelque part, qui va les mener donc jusqu'à la soutenance. Et assez souvent, il y a des... le mot fort, c'est le mot drame est assez fort, mais ils vont vraiment se considérer comme... ils vont par dépit, ils vont se diriger vers le monde extra-académique. Et là, il y a ce choc des cultures. Ils n'ont pas l'entreprise et le doctorant SHS pour le cas. Ils ne parlent pas le même langage. Et donc, la personne va se sentir pas à sa place. Elle a imaginé l'autre chose. Donc, c'est vraiment un échec personnel. Après, il y a bien sûr le salaire qui va intervenir, le niveau de salaire, les responsabilités, le poste. En sein de l'entreprise, c'est tout, ça va continuer, ça va contribuer à ce sentiment. Juste derrière vous, il y a eu... Vous voulez peut-être... Oui, pardon.
Mais je n'ai pas bien compris. Je vais me poser aussi la question.
Florent Olivier, direction générale de la recherche et de l'innovation. Dagmara, dans ce que vous avez évoqué comme recommandation, il y a le fait de mettre en œuvre davantage de dialogue et de parole entre les différentes personnes et les différents acteurs. Par contre, vous n'évoquez pas la possibilité de mettre en relation les doctorants SHS CIFRE en l'occurrence, de manière à pouvoir échanger entre eux et dédramatiser leur situation quelque part, en tout cas, et en parler entre eux.
C'est déjà fait, parce que depuis l'année dernière, il existe une association des doctorants CIFRE SHS qui commence à agir dans ce sens-là, de fédérer les SHS CIFRE et d'agir justement pour un dialogue, pour déjà renforcer leur place, parce que c'est vraiment un pourcentage assez minoritaire, on va dire, mais... qui va augmenter, qui augmente réellement. Et eux, ils se sont, c'est vraiment leur idée, leur projet de défendre quelque part, renforcer le dialogue, en tout cas, entre les doctorants CIFRE SHS, donc tout ce qui est l'université, donc laboratoire, encadrant, école doctorale, et les entreprises.
Donc, Éric Martel, Paris Sud. C'est une question. Donc, comment est gérée par les jeunes chercheurs en Allemagne cette situation de tension absolument terrible entre un statut qui est hyper valorisé et une société qui, par le biais de l'université, les traite avec le plus grand mépris ?
Il y a des tensions.
Excusez-moi, parce que je suis actuellement à Paris.
Très très forte et un petit peu assassine au sein de l'université, parce que c'est vrai que ce qui est peut-être important de rappeler dans les différences entre la France et l'Allemagne, c'est que le nombre de contrats doctoraux rémunérés en Allemagne est largement supérieur à celui de la France. Mais c'est bizarrement une manière d'avoir aussi un personnel déjà quand même qualifié, qui a une production scientifique de qualité, qui coûte peu cher. Et ensuite, c'est seulement, disons, après que la situation, c'est celle du postdoc qui devient absolument dramatique, disons. Disons, le drame peut-être se situe pas au même niveau dans la chronologie française ou allemande, elle se situe pas au même moment. Mais donc après, entre doctorants, finalement l'ambiance est plutôt bonne et ils sont très intégrés aux équipes de recherche. Donc ce sont des doctorants actifs qui ont quand même une certaine confiance et qui ont des productions scientifiques reconnues, etc. Mais après, dans ce temps de post-doc, il y a effectivement une course aussi, comme on parlait de cette marchéisation, c'était bien ça, et pas marchandisation, mais et puis aussi une course à la concurrence, à la publication, à la visibilité, et ensuite ce qui est absolument décisif, c'est des questions de réseau. Et aussi, il faut savoir que le directeur de thèse sera déterminant, c'est-à-dire que ça fonctionne par clan, c'est très clanique, par famille, et après il y a des jeux de pouvoir qui sont décisifs aussi sur la puissance, disons, de la maison d'où on vient.
En fait, je voulais plus savoir comment ils géraient cette dissonance cognitive entre le fait d'être docteur, donc le plus haut statut
et la reconnaissance sociale, disons.
Voilà, et cette espèce de situation réelle qui ne correspondait pas du tout à...
Il y a aussi un tabou autour de ça, parce que c'est vrai que c'est... C'est toujours le titre est inscrit sur une boîte aux lettres, par exemple. Je suis docteur, il faut le dire, et ça c'est vrai. Mais après, au sein du monde des entreprises, il y a un vrai mépris. Et dans le, moi, je peux répondre par une expérience personnelle, disons à l'agence du travail, donc l'équivalent de Pôle emploi en France, on m'a déjà conseillé dans certains cas de gommer mes qualifications, car voyant mon CV, ça ira directement, ma candidature ira directement dans la poubelle à papier. C'est des choses qui sont dites, effectivement, qui ne sont pas abordées à l'université, et ce titre a une fonction qui perd toute sa validité, qui devient même invalidante à l'extérieur du contexte académique. Ça, c'est sûr.